Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Smart Training Podcast. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier, puisque j'ai la chance de recevoir un invité de renom à la personne de Guillaume Vetta. Guillaume, c'est un préparateur physique de 32 ans qui a déjà une riche expérience du sport de haut niveau, avec plus de 10 ans, 10 saisons dans le sport de haut niveau. Il a pu exercer en Formule 1, notamment aux côtés de Charles Pic, puis en Roumanie à Bucarest, dans un club de handball masculin évoluant au niveau européen. Aujourd'hui, il est dans le basket professionnel. Et c'est avec un énorme plaisir que j'échange avec lui autour de différents thèmes attenant à la performance. Il va pouvoir parler de son parcours, de ses rencontres, des opportunités qu'il a pu se créer et également de sa manière de travailler aujourd'hui à Chalon. C'est quelqu'un de très passionné avec qui il est très facile d'échanger. J'espère que vous allez aimer ce podcast. Il en amènera d'autres, j'espère, avec Guillaume puisqu'il y a énormément de sujets autour desquels nous pouvons échanger. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre des étoiles, notamment sur Apple Podcast. Ou également m'envoyer des messages en privé parce que ça me donne de la force pour continuer à réaliser ce projet et essayer d'avoir des intervenants de toujours plus grande qualité. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve très prochainement. Oh, let's go. Ok, salut à tous, on se retrouve pour le 5e épisode du Smart Training Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Guillaume Vetta. Comme je l'ai partagé il y a quelques jours sur mes réseaux, Guillaume, c'est un prépa physique dans le basket aujourd'hui, mais c'est surtout un prépa qui a pas mal d'expérience. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le premier intervenant avec autant d'expérience dans le sport de haut niveau. Donc c'est cool de le recevoir. Et pour la petite anecdote, moi je pense que je t'ai connu, parce que je te connaissais déjà de nom. J'ai eu Franck Kuhn au téléphone il y a quelques mois parce que Laurent Foiriste me l'avait transmis. Il m'avait dit: ouais, regarde le livre qu'on a fait avec Guillaume.
Ok.
Ça te donnera des billes sur le basket, parce qu'il ne me connaissait pas du tout, enfin, il m'a pris en tant que jeune étudiant qui arrive dans le monde pro. Et je crois que je t'avais déjà même, il y a quelques années, je t'avais vu déjà sur quand tu t'as prépa physique basket ou sport collectif, il y a votre livre qui arrive en premier quasiment.
Ouais, peut-être.
Du coup, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Et après, j'ai regardé ton LinkedIn, j'ai vu, je ne savais pas qu'il y avait quelques passages dans d'autres sports, je pensais que tu faisais du basket. Mais du coup, c'est cool. Merci déjà d'accepter.
Avec plaisir.
De témoigner, enfin en tout cas de discuter avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, âge, poids, taille, non on va éviter, âge et un peu ton parcours, comment t'es arrivé jusqu'ici on va dire. Bon, okay. Ça va être, je pense que c'est un peu long du coup, parce qu'il y a quelques années.
On peut faire la version courte, on peut faire la version un peu plus...
Ouais, ce que je sais pas, c'est déjà de dire un peu ton parcours, comment t'es arrivé dans la prépa physique, tes études, etc. Enfin ton parcours un peu scolaire et jusqu'à ton arrivée dans le monde pro on va dire.
Ok, bon, comme tu l'as dit, je m'appelle Guillaume Vetta, j'ai 32 ans. Donc, comment je suis arrivé dans la prépa? Ben, si tu veux, un peu après le bac, j'avais vraiment des hésitations sur ce que je voulais faire comme études supérieures. Mmh. Et ce que je savais, c'est que j'étais passionné par le sport, j'ai toujours pratiqué du sport, j'ai même pratiqué plein de sports différents.
Toi, t'es footé à la base?
Ouais, je me suis beaucoup concentré sur le foot après mon adolescence. Mmh. Mais avant ça, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait du judo, du handball, du tennis, de la natation. J'ai vraiment fait pas mal de choses. Et donc, j'étais passionné de sport. Donc, je me suis inscrit en STAPS sans trop savoir ce que j'allais faire. Et c'est là que j'ai découvert la préparation physique.
Mmh. Cool.
Et donc, du coup, c'est devenu un sujet passionnant, quoi.
Ouais.
Et donc j'ai continué dans cette filière-là. Donc, moi je suis originaire de la Drôme, donc Montélimar. Okay. Le STAPS le plus proche c'était Valence à l'époque.
Yes.
Et donc à l'époque on avait notre L1 STAPS qui était un espèce de tronc commun. Où, bon, j'imagine que c'est toujours la même chose.
C'est la même chose toujours.
Avec la physio, la nat, la bioméca, machin. Et ensuite on devait prendre une spécialisation en L2.
Ouais.
Donc entraînement sportif,
et
tous les autres, voilà. Et la L2 ES, elle n'existait pas à Valence. Donc, donc je suis parti à Montpellier, au STAPS de Montpellier. Là, c'était la folie aussi parce que les infrastructures, c'est autre chose. Les intervenants, c'était fou, quoi.
C'est encore réputé aujourd'hui, donc je suppose
encore aujourd'hui, c'est hyper réputé, quoi.
Ah,
okay. Bon, quand t'es en amphi avec Michel Pradé, Romain Barras,
c'est cool.
Il y avait un mélange de Michel Pradé, c'est un pionnier de la prépa physique en France.
Ouais, c'est clair.
Et à côté, t'as Romain Barras qui, à l'époque, était encore décathlonien, donc qui s'entraînait. Ce mélange d'expérience et de connaissances empiriques, c'était incroyable.
Ouais, tu m'étonnes.
Donc vraiment, les années à Montpellier, c'était fou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de continuer sur mon master. Sauf qu'à la fin de ma licence, je suis contacté par Charles Pic, du coup, qui est pilote de Formule 1 à l'époque. Ouais. Parce qu'il se trouve qu'on vit dans la même ville, on a grandi dans la même ville. Ah, en fait. Cool. Donc on a des connaissances en commun. Et par le biais de ses connaissances, il apprend que moi, je fais des études pour devenir préparateur physique. Et lui, à l'époque, il a besoin d'un prépa. Donc il me contacte. Et bon, forcément, je me jette dans l'aventure. Je me dis, c'est pas grave, le master, on le fera plus tard. Et donc, du coup, je me lance là-dedans avec lui. Donc à l'époque, on était deux prépas, parce qu'il y avait lui et son petit frère aussi qui faisait de la GP2. Donc Arthur. Charles était en Formule 1 à l'époque. C'était sa première année de Formule 1 chez Marussia, donc écurie Ferrari, et son petit frère Arthur, qui était en GP2, donc c'est l'équivalent de la deuxième division dans le sport auto.
Ouais.
Et donc, il fallait qu'on s'occupe des deux. Ils avaient déjà un prépa, mais ils avaient besoin d'un deuxième prépa.
Ah oui, c'est... Du coup, ça, c'était... t'étais à temps plein sur ce
rôle-là. J'étais à temps plein avec les deux frères.
Et tu... Comment ça se passait? Tu suivais, tu étais en déplacement tout le temps avec eux. Eux, ils avaient sûrement pas le même calendrier.
Ouais, alors au début, si tu veux, j'ai pas fait tous les déplacements dès le départ. J'ai eu une petite période d'essai, comme dans n'importe quelle entreprise, tu vois. Et donc, le prépa qui était déjà là a fait tous les déplacements pendant 6 mois, je crois.
Mmh.
Et puis, au bout de 6 mois, j'ai commencé à partir avec eux. Le premier prépa a arrêté, donc je me suis retrouvé tout seul.
Ok.
Et voilà, et ça a duré 3 ans comme ça.
Ok. Et. Tu vois, est-ce que, question peut-être un peu bête, mais tu vois, moi, en sortant de licence, je pense que si un mec de Formule 1 m'appelle et me dit, surtout, alors je sais pas trop si à l'époque, la Formule 1 c'était autant développé, c'était quand même le.
Ouais, c'était.
Ça a toujours été depuis des années, c'est historique. Moi, tu vois, en sortant de licence, je sais pas si j'aurais eu les épaules, on va dire, pour dire, ok, j'assume ce truc-là, parce que.
Ouais, c'est sûr.
Tu vois, moi, demain, je sais pas, Charles Leclerc m'appelle et dit, ouais, tu vas être mon prépa. Aujourd'hui, je pense, je saute et je me dis, ok, j'ai les compétences, mais en sortant de licence, j'aurais dit. Bon, allez, j'y vais parce que voilà, mais.
Ouais, après, c'était en 2013.
Mm.
Donc, t'imagines, ça va faire 10 ans.
Ouais, ça fait.
Il y a 10 ans, la prépa, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui.
Ça a explosé, donc.
Puis après, il y avait, je pense, cette forme d'insouciance aussi,
ouais,
tu vois.
Ouais, c'est vrai. T'es jeune, donc.
Tu dis, j'ai une opportunité incroyable. Ah, oui, j'y vais, quoi. Et puis.
C'est évident.
Et puis, je pense que. En plus, ce qu'on nous apprend, nous, à la fac, c'est il faut s'adapter tout le temps, quoi,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Et tu développes cette capacité d'adaptation. Et donc, je m'étais dit à ce moment-là, on va trouver des solutions, quoi.
Ouais.
Et puis, si tu veux, j'étais accompagné par déjà un prépa qui était là. Donc, je m'étais dit, va peaufiner un peu ma formation aussi.
Ouais, c'est clair.
Et ça va le faire, quoi.
Ouais.
Et puis, ça a bien fonctionné pendant 3 ans.
Ok. Et ça veut dire que, du coup, c'est la première année où tu étais un peu en binôme avec l'autre et après tu t'es retrouvé tout seul ou ça,
ouais, c'est ça, ouais.
Et
c'est
du
ça.
Coup, les années seules ou même en binôme, c'est-à-dire que tu suivais Charles Pic avec lui, enfin sur les circuits, sur le.
Ouais, ouais, alors après.
Les parties prenantes de l'équipe.
Ouais, c'est ça. En fait, j'étais salarié par. Alors, les deux frères avaient une société, cette société-là, pardon, qui m'employait.
Ok.
Je n'appartenais pas du tout à son écurie.
Ouais, ouais,
ok. J'étais pas du tout lié à son écurie. J'étais lié juste à Charles et Arthur.
Ok.
Et donc j'ai voyagé avec eux pendant pas mal de temps. Après bon, il est pas resté en Formule 1 super longtemps non plus.
Ok.
La dernière année, il était pilote réserviste.
Ok.
Donc lui non plus ne faisait pas forcément tous les déplacements non plus.
Mm-hmm.
Et en parallèle, il y avait la Formule électrique qui s'est développée.
Ouais. Ok.
La Formule I maintenant.
I, ok. C'était Formule 1, non ?
Ouais, enfin en anglais c'est Formule I, mais oui, okay. C'est la Formule E,
ouais.
Formule électrique. Et c'était la première année où ça se lançait, et donc du coup, ben, Charles avait une opportunité. Donc on a fait aussi des courses du championnat de Formule électrique.
C'est incroyable.
Ouais, donc en plus c'était tout nouveau, quoi. Donc c'était.
J'ai vu ça sur ton CV, je me suis dit, attends. C'est incroyable.
Maintenant, avec le recul, c'est vrai que je me dis que c'était une expérience incroyable.
Tu vois, moi, je suis du genre, pour le coup, plus j'avance, plus je me dis, le sport individuel où il y a des sous, parce qu'il y a beaucoup de sports individuels où c'est galère, c'est bénef, parce que tu peux vraiment essayer de peaufiner la chose et tout. Et du coup, je suis, tu vois, des préparateurs physiques ou des performance coach, on ne dit même plus préparateurs physiques, sur des mecs qui sont en Formule 1 aujourd'hui. Et je vois un peu comment ils font leur quotidien, je me dis, mais c'est inaccessible. Enfin, comment t'arrives là, tu vois ?
Non, c'est pas inaccessible.
Non, mais tu vois ce que je veux dire ?
Il faut avoir le bon réseau. Ouais, et le réseau, ça se construit, en fait.
Ouais, évidemment, évidemment. Mais c'est quand même quelque chose qui. Il y a 20 pilotes de Formule 1 dans le monde.
Ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est l'élite, quoi.
Il y a 20 équipes, enfin, il y a quasiment 20 équipes de Pro B, de Pro A, tu vois. Enfin, il y a plein de sports. On parle de 20 pilotes, enfin, c'est énorme, quoi.
Non,
je me dis, attends, c'est incroyable. Je pense que t'es peut-être le seul pilote. j'espère peut-être un jour j'irai là-dedans, mais t'es peut-être le seul prépa performance coach d'un pilote de Formule 1 que je rencontrerai dans ma vie, tu vois. Parce que c'est compliqué, tu vois, il n'y a pas beaucoup.
C'est vrai. C'est assez Après, il y a plein de divisions annexes aussi. Il y a plein de championnats divers et variés. Oui. C'est vrai que la Formule 1, c'est un peu.
C'est le Graal, on va dire. Ça peut représenter le Graal.
C'est la discipline reine, quoi, du sport auto.
Ah, c'est clair. Et du coup, je rebondis là-dessus, quand tu étais avec lui. Tu vois, quand on voit un peu ce qui se fait, alors de très loin, ce qui se fait en Formule 1, je suppose qu'il y a 10 ans, c'était pas la même chose, l'accompagnement en prépa physique. Mais est-ce que c'était vraiment sur l'aspect développement physique pour la Formule 1, ou c'était plus général, gestion, récup, tous ces éléments-là aussi?
Alors, on avait, comme dans tous les sports, il y a toujours différentes phases. Donc, on avait une phase plutôt de préparation, où là, l'objectif, c'était de gagner, de développer l'endurance. Clairement, et la force, mais avec la contrainte de ne pas prendre de volume. Parce qu'en fait,
du poids
non plus, parce que le poids du pilote, c'est quelque chose qui vient s'ajouter dans le poids global de la voiture.
Ouais,
et ça a des répercussions sur la performance de la voiture, quoi. Donc c'est pour ça que souvent les pilotes, c'est des tout petits gabarits,
plutôt longilignes.
Très longilignes, très fins. Mais ça demande quand même beaucoup de force, parce qu'il faut supporter la force léger, tout ça. Et puis un truc qu'on sait pas aussi, et ça, à chaque fois que je raconte cette anecdote, les gens ils se rendent compte du truc, c'est que c'est pas une voiture.
C'est bon.
On continue.
Vas-y. Ok, on va faire une petite pause. Tac, je ferai une coupure, c'est pas grave. Tu disais l'anecdote.
Ouais, l'anecdote que pas grand monde connaît, c'est que en fait, ça se pilote pas du tout comme une voiture de tourisme.
Ouais.
Ça, j'imagine que tout le monde en a conscience. Mais si tu veux, il y a que deux pédales, accélérateur, frein, pas d'embrayage. Et en fait, quand la voiture elle est lancée à plus de 200 km/h et qu'elle arrive dans un virage et qu'il faut freiner le plus tard possible, en fait. C'est pas comme les pédales de frein de nos voitures où tu vas gérer le dosage de freinage. Là en fait, ils mettent un coup de pied de toute leur force dans la pédale de frein, et en fait pour le dosage du freinage, il va être fait sur la partie un peu excentrique, tu vois. Ils vont freiner le retour de pédale. C'est ça qui fait qu'ils vont freiner plus ou moins fort.
Donc
en fait, ça demande une force explosive du bas du corps qui est incroyable. Et surtout, ils freinent toujours avec la même jambe.
Ah ouais, ça fait des équilibres potentiels.
Donc ça crée des déséquilibres au niveau des lombaires, enfin au niveau de la jambe déjà, puis après au niveau des lombaires. Donc il y a tout ça à gérer. Donc ça, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte quand on voit de l'extérieur. Et puis après, bien sûr, tout ce qu'on voit à la télé, l'aspect cognitif.
On voit souvent, c'est un peu ce qui est mis en avant, parce que c'est plus vendeur que
un
peu excentrique ou des trucs qui sont plus analytiques. On va avoir des mecs avec des bless pods, avec des trucs.
Ouais, voilà, c'est ça.
Qui, des fois, en vrai, tu te dis, c'est un peu.
Nous, à l'époque, on n'avait pas de bless pods, donc c'est avec des balles de tennis, des trucs, voilà.
Des fois, c'est un peu aussi une manière de. C'est marketing, on sait très bien que, voilà.
Il y a toujours une part de marketing.
Et du coup, je rebondis là-dessus parce que c'est intéressant. Tu vois, aujourd'hui, moi, dans mon parcours, c'est un truc qui m'importe vraiment, c'est l'approche un peu psychophysio. Mon master, c'est prépa mental. J'adore la complémentarité des deux, je veux dire. Mm-hmm. Et est-ce que toi, quand tu travaillais avec lui, il y avait un prépa mental ou quelqu'un qui bossait là-dessus? Est-ce que toi, par exemple, la prise de décision, ce genre de choses, c'est des choses, avec le travail neuro, etc., c'est des choses qui t'intéressaient ou c'était pas du tout?
Alors, les déterminants cognitifs de la performance, oui, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et ça a commencé à la fac à Montpellier avec Ludovic Marin, qui était notre prof qui intervenait sur les déterminants cognitifs de la performance. Et franchement, ses cours, c'était incroyable. Il parlait de des trucs classiques, quoi. Prise de décision.
Qui se développe beaucoup aujourd'hui.
Voilà, temps de réaction, temps de mouvement, tous ces trucs-là. Mais c'était vraiment intéressant. Donc, moi, j'adorais ça. Après, le côté un peu plus psycho-mental. J'ai déjà, moi, mon cursus universitaire, j'ai eu les basiques, quoi.
Oui, mais c'est
psychologie
pas
du sport,
comme tout
mais
le monde.
Pas plus. Et par contre, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, j'ai clairement pas le temps de faire une formation en plus, mais c'est quelque chose que j'ai dans la tête.
Ouais, à long terme, pourquoi pas.
Mais sinon, j'ai jamais intervenu sur ce pan-là. Pas plus loin que juste la relation sociale et humaine avec mes athlètes au quotidien.
Il est du psycho au quotidien, mais c'est pas.
Voilà,
tu sais
qu'un mec, le jour où il est un peu moins bien, il va se confier à toi et ça va pas plus loin que ça, tu vois. Est-ce que c'est de la prépa mentale? Enfin, c'est pas de la prépa mentale, c'est sûr.
Est-ce que c'est de l'accompagnement mental? Est-ce que c'est de la psychologie?
Est-ce que c'est de la psychologie du sport ou pas? Je sais pas, mais cet aspect-là du métier de prépa, il est incontournable de toute façon.
C'est un petit peu ce qu'on. Tu vois, parce que surtout par exemple, au volet où je suis, on entend beaucoup, ouais, les kinés, c'est le premier psycho du la premier psychologue de l'équipe, parce que le kiné va voir les filles et tout. Et moi, finalement, en étant avec les filles ou les gars, je me rends compte que c'est pareil pour le prépa, c'est le même.
Ouais, à des degrés différents, oui, sur des sujets un peu différents aussi.
À des moments différents, parce que souvent le kiné, il est sur des moments un peu plus relax ou sur des moments de récup ou de soins, alors que le prépa aura aussi une relation différente avec le staff technique et tout. Mais c'est clair que cette relation.
Tu vois, nous, on mesure, alors majoritairement sur le centre de formation, mais un peu, pas du tout chez les pros d'ailleurs. On mesure, bon, bah voilà, RPE, wellness. Et donc, du coup, bah, quand on a des réponses au questionnaire wellness qui sont un peu sur le sommeil, ça va pas, et ben on va questionner les joueurs se confient à toi ou pas, mais tu vois, ça crée des liens qui vont un peu plus loin que juste la préparation physique.
Ouais, c'est clair. Ouais. Okay. Ok, je reviens sur la suite, sur la Formule 1. Je disais, ouais, du coup, ça fait que tu as été sur les circuits, tu as vu le.
Ouais.
Est-ce que ça, c'est quelque chose, tu penses qu'en termes d'expérience sportive, c'est ton top 1 en termes de vécu ou tu as vu quelque chose?
Alors, c'était. Je ne sais pas si c'est le top 1, parce qu'à la base, je n'étais pas un grand passionné de sport auto. Ouais. Par contre, c'est un milieu où tu en prends plein les yeux tout le temps, mais c'est incroyable. Quand tu es dans les paddocks.
Ouais, c'est...
Quand t'es dans les paddocks au grand prix d'Abu Dhabi, ouais, t'en prends plein les yeux, quoi. Le départ, il se fait en fin d'après-midi, il fait jour. L'arrivée, c'est la nuit, feu d'artifice. Il y a une marina avec des yachts incroyables au milieu du circuit. Un hôtel qui passe au-dessus de la piste. Enfin, t'en prends plein les yeux, quoi.
Ouais, et même je suppose que les conditions de vie du sportif, elles sont
En fait, c'est quand ce que tu vois là, tu vois la ligne des stands à la télé. Donc, tu as chaque box pour chaque écurie. Ouais. Et en fait, derrière, tu as le je sais plus comment on appelle ça, le paddock peut-être.
Ouais, de chaque équipe.
Voilà. Et en fait, derrière, tu as une zone qui est réservée aux équipes et aux pilotes, puis aux journalistes et tout ça, tu vois. Ouais, vois. Donc, quand tu regardes sur Canal+,
les émissions.
Les journalistes, ils se baladent là. Et en fait, chaque écurie a un petit baraquement. Et dans ce baraquement, bah, tu as ta cuisine pour faire à manger pour toute ton équipe. Ils ont les salles de réunion pour préparer les courses et les réglages de la voiture avec les ingénieurs, tout ça. Okay. Et y a des salles de repos pour les pilotes. C'est d'ailleurs là où on en profite pour faire nos échauffements, nos activations, les choses comme ça. Et voilà. Et en fait, tu as tout ce monde-là qui vit ensemble. Donc
finalement, tu es plus ou moins atterri aussi à l'écurie.
Alors par contre, tu es totalement accepté par l'écurie. Ouais. Tu es dans les mêmes lieux qu'eux, tu manges avec eux, etc.
Ouais,
okay. Mais bon, j'étais salarié par Charles. Okay. Je n'étais pas salarié par l'écurie.
Ok, c'est cool ça. Du coup.
Et après, en termes de prépa, il y avait ça, et cet endroit-là où on faisait les activations juste avant les essais libres ou les qualifs ou la course. Et le reste du temps, on s'entraînait souvent à l'hôtel parce que bah, quand tu vas dans des endroits comme ça, tu es tout le temps dans des beaux hôtels avec des belles salles de muscu.
Oui,
donc c'est là où tu t'entraînes. Et en fait, donc je reviens un petit peu sur ce que je disais là, qu'on avait notre période un peu de prépa où là, on était à Montélimar du coup. Ouais. Et on faisait, donc on s'entraînait sur place. On avait un partenariat avec une salle de muscu privée. Okay. On faisait des séances à l'extérieur quand on avait besoin. On faisait beaucoup de vélo de route pour l'aspect cardio. Ouais.
Toi, tu t'entraînais aussi. Enfin, dans
je faisais toutes les séances avec eux.
C'est cool en même temps. Ouais. Du coup. C'est un vrai lifestyle.
Donc, autant te dire que j'ai pas du tout un profil d'endurance. Donc, quand on était sur le vélo, c'était un peu compliqué. Sur les séances de circuit training, c'était un peu plus.
Ouais. Et est-ce que tu retrouves des athlètes comme, tu vois, aujourd'hui au basket, au volley, dans les sports co, de plus en plus, tu rencontres des athlètes un peu exceptionnels de par leur qualité, même génétique, etc. Est-ce qu'en Formule 1, ou du coup avec Charles ou son frère, est-ce que tu as aussi reconnu des qualités exceptionnelles par rapport à la norme sur d'autres facteurs? Du coup, sûrement aussi le temps de réaction, etc.
Ouais, bah là-dessus, oui, clairement. Après, l'aspect force, on va pas. Ça reste quand même des petits gabarits, tu vois. Donc, il y a souvent des gens qui sont plus forts qu'eux. Par contre, c'est vrai que sur l'endurance, en fait, si tu veux, quand ils font un grand prix, ils perdent. Je sais pas combien de litres d'eau pendant le Grand Prix. Ça dure longtemps. Les conditions, elles sont un peu extrêmes, tu vois. Il fait chaud. Donc, quand tu te retrouves à Singapour ou je sais pas où, qui a un
Taux
taux d'humidité qui est énorme, enfin, tu vois,
d'humidité
et
complètement.
il faut être
Capacité
capable
d'adaptation.
de résister à ces conditions-là, quoi.
Ah, je me doute bien.
C'est en ça que l'aspect aérobie, endurance, tout ça.
Ouais, et puis je me doute bien que réussir à rester focus, à prendre les
C'est
bonnes
ça,
décisions, à des dans
voilà.
des timings très forts, alors que ça fait quelques heures, enfin
C'est
quelques.
exactement ça.
Ouais, c'est chaud. Ouais, ok.
Et donc là-dessus, ouais. Là-dessus, c'était très fort, hein. Cyclisme. Alors, on faisait des petits stages pendant les vacances. L'hiver, par exemple, à Noël, on partait à la montagne.
Ok.
On faisait pas de ski, bien entendu, mais on
Ouais,
faisait des raquettes, tu
ok,
vois.
ouais.
Donc, des séances raquettes.
Ah, tu peux te
Je vois
mettre
qu'on
mal
a déjà
aussi.
fait même des séances de ski de fond, tu
Ok,
vois, des choses
c'est
comme
cool,
ça.
hein. Ah, c'est cool. Toi, ça te fait vraiment une expérience en plus
Ouais.
exceptionnelle, parce que tu suis les questions peut-être sensibles. Comment c'était en termes de contrat? Alors, je sais pas si tu peux le dire avec du recul, les restrictions.
J'avais un contrat CDD employé par la société
Ok, et c'est
de...
rémunéré bien?
Non, enfin non.
Ah
J'étais à 1500 euros net par mois,
oui, ok.
tu vois. Je
Ok.
sortais de la fac.
Ouais, mais tu penses
C'était
qu'aujourd'hui,
bah, je pense que les prépas physiques
De Lewis Hamilton.
de Lewis Hamilton, je pense que son salaire à l'année, il se compte en plusieurs centaines de milliers d'euros,
Oui,
tu vois.
c'est complètement différent, ouais.
Avec sûrement un appart de fonction à Monaco et tout
Oui,
ce qui va avec, quoi.
oui.
Mais
À l'époque, c'était pas là.
si tu veux, à l'époque,
Ouais,
cette
ouais,
opportunité,
tu as pas
ben,
commencé.
j'ai même pas discuté,
Ah
quoi. Il
non,
m'a dit le
évidemment.
contrat, j'ai dit ok, j'ai même pas regardé combien
Ouais,
ils
c'est
allaient me
clair.
payer, et je suis parti, quoi.
Ouais. Puis, ouais, Charles, il était jeune à l'époque.
On a le même âge, on est de la même
Ah oui,
année.
ok.
Ouais.
Ah oui, ok.
On est de
Et ouais.
90 tous les deux.
Puis de toute façon, après, tu voyages sans frais, tu suis
Oui,
les
après lui,
pilotes.
c'est lui c'est sa société qui prenait en charge les frais de déplacement,
Ouais,
les hôtels, tout
etc.
ça, quoi.
Ouais, donc ça reste une expérience de malade, quoi.
Non, non, c'était vraiment super enrichissant, hein.
Ah, tu
Bon,
m'étonnes.
du coup, ça a duré 3 ans. À la fin, malheureusement, il n'a pas retrouvé de baquet, donc ça a été un peu compliqué. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est l'opportunité pour reprendre mes études et partir en master.
Ok.
Et en fait, bon, en parallèle, j'avais quand même pas mal développé un peu le côté coach perso. J'avais des athlètes de plus ou moins haut niveau qui m'avaient contacté, avec qui je travaillais au quotidien. Et je me voyais mal. En tout cas, pour moi, c'était un problème de repartir en formation continue, tu vois.
Ok.
De tout lâcher et de repartir à fond dans la fac.
Ouais.
Donc, il fallait que je trouve une solution un peu alternative.
Ouais.
Et c'est là où je me suis inscrit au DU
De Lyon.
de Lyon, ouais.
Ok.
Je me suis inscrit au DU de Lyon. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an. En même temps, je suis parti vivre à Biarritz cette même année, pour des raisons personnelles.
C'est en distanciel, c'est des séminaires
C'est des
de.
séminaires, ouais.
Ouais,
En
ok.
fait, tu as 10 séminaires dans
Ah,
l'année, où c'est en présentiel pour le coup.
ok.
Et alors, parce qu'il y a pas mal, l'offre de DU en France, elle commence à s'étoffer un petit peu.
Ça a explosé.
Et à l'époque, il y en avait un peu moins. Bon, il y avait
Ouais.
celui de Dijon, il y
Ah,
avait
comme
celui de
est-il, ouais.
Lyon. Bon,
Ceux qui
j'ai
restent.
choisi aussi celui de Lyon parce que d'un point de vue géographique, c'était plus près.
Ouais.
Et aussi parce que bah, le fait que ça soit le diplôme universitaire européen de prépa
Ouais,
physique, il y
il y a beaucoup
avait
qui étaient pour
une
ça.
collaboration avec des facs.
En Suisse, il n'y avait pas
Donc il y avait
ça.
Lausanne,
Ouais, j'avais
il y
regardé
avait
aussi.
Bruxelles, il y avait Turin.
Ouais, oui.
Et après le reste, donc en fait sur les 10 séminaires,
Tu bougeais.
il y en avait 3 à l'étranger. Il y en avait un
C'est
à Turin,
cool.
un à Lausanne et un à Bruxelles.
Ok. Tu trouves qu'il t'a apporté ce
Ouais,
DU1?
génial, c'était super. Ne serait-ce que, bon, déjà les intervenants, c'était vraiment, c'était un mixte équilibré entre les intervenants de la fac, du
Ouais.
STAPS de Lyon, qui est quand même un
Et
STAPS aussi qui est
reconnu
reconnu en
pour la
France.
partie chercheur scientifique, quoi.
Voilà.
Ouais.
Donc tu avais des profs de STAPS, de l'UFR STAPS de Lyon, qui intervenaient dans le DU, et en même temps ils faisaient intervenir des professionnels.
Ouais.
Donc des Fred Marcerou dans le
Ouais,
rugby, tu vois,
des mecs qui
ou
ont quand même
des
eu.
prépas physiques dans le foot. Je me rappelle qu'il y avait le responsable de la prépa physique du centre de formation de l'Olympique de Marseille.
Ouais, donc c'est cool.
Je me rappelle plus son nom, mais
Ouais, c'était il y a
c'était
quelques années.
en 2015, donc
Ouais, j'aurais pas la
2015-2016.
ref de toute façon.
Donc
Ouais,
si il
ok.
nous écoute, bref,
Il
c'est pas grave,
va pas être
mais bon,
content.
il y avait vraiment des intervenants du haut niveau
Ouais,
qui venaient, et
oui.
ça c'était
T'avais
vraiment
un mélange cool entre
voilà.
terrain
C'est là
et
où j'ai
science.
rencontré David Florence.
Ok. Puis je suppose que aussi les gens qui viennent s'y inscrire, c'est aussi des gars qui ont une réflexion intéressante de la perf et qui viennent pas là par hasard, ok. Ouais, je viens là parce que ça m'intéresse, le coaching sportif. Non, c'est des gars qui ont plus
Ouais,
de.
c'est ça, ouais.
Donc, c'est aussi des
C'est ça.
rencontres qui sont cool,
Tu
quoi.
vois, par exemple, on avait des pompiers
Ok, ah ouais.
qui avaient justement cette réflexion-là, qui voulaient aller plus loin dans la manière de s'entraîner au
Ouais,
quotidien à
ok.
la caserne, tu vois.
Ouais,
Et c'était vachement. C'était pluridisciplinaire déjà. Il y avait un peu toutes les activités sportives
ok. Ouais.
différentes. Il y avait des pompiers, des gars de l'armée. Enfin, c'était
Ah,
vraiment
c'est
super
cool.
intéressant.
Ok.
Et puis, du coup, donc tu fais 7 séminaires à Lyon avec ces profs. Et puis tu fais 3 séminaires à l'étranger, quoi.
Ouais, ok.
Tu vas à Lausanne, tu vois le STAPS, enfin ça
C'est
s'appelle pas
incroyable.
ça le STAPS, mais
Ouais,
tu vois
la
la fac de
structure.
sport à Lausanne,
C'est.
elle est équipée comme jamais, enfin c'est un
Ouais,
truc
ça
de
n'a rien à
fou,
voir
quoi.
avec ce qu'on peut voir dans les petites villes françaises.
Ouais, ils ont un espace, je sais pas combien de mètres carrés ça va faire 300 mètres carrés,
Ouais, ok.
c'est que de la réhabilitation.
Ouais, donc je
Ils
suppose
ont
que les
des
machines, elles
machines,
sont
ils ont tout ce qu'il
incroyables.
faut,
Ouais.
tous les meilleurs joueurs de foot de Suisse, ils vont
Ils vont
là-bas
là-bas.
faire leur réhab après des croisés, par
Ouais,
exemple,
c'est
tu vois.
incroyable. On n'a pas cette culture-là en France.
C'est au bord du lac, donc
Ah ouais, en plus le cadre est
c'est
cool.
magnifique.
Ok.
Et puis des pensées un peu différentes, des sensibilités différentes aussi. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Egger,
Ah oui, ok.
qui est aussi un
Qui
pionnier,
est
tu vois.
un ponte, une ponte, un
Oh,
ponte. Un ponte dans le
c'est
milieu.
un érudit, je ne
Ouais,
sais
c'est
pas
une
quel adjectif
référence, on
utiliser,
va
mais
dire.
c'est une référence.
Ouais.
Donc ce gars-là, il te fait un cours de 4 heures.
T'écoutes, quoi. Tu bois.
Tu bois tout ce qu'il dit,
Ouais.
quoi. C'est du petit lait.
Ouais, c'est clair.
Donc
Ok.
ça, Bruxelles, c'était pareil, même chose. Grosse fac, des équipements à la pointe de la modernité, des intervenants du très haut niveau.
Ouais.
Là, c'était vachement tennis. Donc
Ok.
y avait les prépas physiques de l'équipe nationale de Belgique, tu
Ok.
vois, enfin, qui s'occupaient des meilleurs joueurs belges.
Donc c'est cool aussi, tu vois d'autres choses.
Ouais, non, franchement, c'était vraiment super enrichissant. À Turin, c'était un peu plus le foot, tu vois.
Ouais, je crois qu'à la base, j'ai déjà écouté des podcasts là-dessus, c'était même le prépa physique de la Juventus qui
Ouais,
intervenait dans le
ouais.
DU et tout, enfin
Il y
c'est.
avait Pintus aussi. Donc,
Ah si, si,
c'est un
si.
prépa physique
Ouais,
reconnu
il est très
dans le monde
reconnu,
du
il
foot.
était pas à Madrid à un moment. Je pense qu'il a été à Madrid.
Je crois qu'il est toujours à Madrid,
Ouais, parce
d'ailleurs.
que j'ai vu un truc sur les réseaux il y a quelques jours sur lui, justement. Ouais, donc c'est des.
Et puis à l'époque, moi qui ai bien suivi le football, je veux dire, on se rappelle tous, les gens de ma génération, quand Zidane il part de France, il arrive à Turin,
Ouais.
les premiers retours qu'il fait, c'est qu'après chaque séance, il vomit. Bon, c'est un peu
Ouais,
caricaturé, tu
c'est.
vois.
Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas
Est-ce que
bien?
c'est bien, pas bien? Ça, c'est
C'est autre
une
chose,
autre réflexion,
mais.
mais tu sentais qu'il y
Il y
avait
avait une
un
autre
autre courant
culture. Ouais,
là-bas,
il y
tu
avait
vois.
autre chose dans le foot. En tout cas, là-bas, c'était
Et
différent à l'époque.
donc, ben, ça t'ouvre un peu les portes de ce monde-là aussi, et tu
Ouais, c'est
rencontres des
cool.
gens hyper intéressants, avec des visions différentes. Et ça, en fait, ça t'enrichit.
Ouais, évidemment. Oui, c'est un bagage
Et
complet,
quand toi,
quoi.
t'arrives sur le terrain et que c'est à toi d'intervenir, ben, boum,
Ouais, t'as pris un.
t'as pris un peu
De galon
des
là-bas. Ouais,
Italiens, un peu
complètement.
des Belges, un peu ton expérience perso, des gens que t'as rencontrés.
Ouais, c'est cool ça.
À cette période-là, en plus, c'est à cette époque que je rencontre Franck Kühn.
Ok. Lui, il est dans quel cadre tu le rencontres?
Eh ben, comme je te disais, pour des raisons perso, je m'installe à Biarritz.
Ok.
Et à ce moment-là, Franck, il vient de. Il a arrêté le handball. Fin de contrat avec son équipe de handball à l'époque. Il est préparateur physique de l'équipe de France et il passe son diplôme d'ostéo.
Ah oui, ok, oui, c'est vrai qu'il a une
Et
petite expérience.
il le passe à l'école d'ostéo de Bayonne.
Ah, ok.
C'est pour ça qu'en fait, Et puis franchement, pour l'anecdote, un jour, je me balade sur les réseaux et je vois Franck Kühn qui poste une photo de son footing sur la plage en bas de chez moi.
Ah, ok.
Je dis, ah, mais ce mec-là, il habite à côté, je vais lui envoyer un message.
Ouais, bah
On va
oui.
aller boire un café, on va échanger. En fait, j'étais comme toi,
Ouais.
quel âge j'avais en... J'avais 26 ans, tu
Ouais, ok.
vois. Je connaissais personne, j'avais pas de réseau. Et je m'imprégnais un peu
Ce que tu voyais,
des
ouais, bah
mecs
oui.
qui avaient de l'expérience, qui étaient reconnus,
Ouais,
tu vois.
évidemment.
Et je me dis, prépa physique de l'équipe de France de basket, qui est dans le coin.
J'ai pas laissé passer
Voilà, je
l'occasion.
vais lui envoyer un message. Autant il va
Ouais,
lire, il va même pas me répondre. Et
c'est pas grave, mais bon.
autant il est super sympa. Et il me dit, OK, pas de souci, viens, on boit un café. C'est ce qui s'est passé, du coup.
Ouais.
Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et donc, on a passé. À l'époque, il était même coach d'une équipe de prénates.
Ah ouais.
Ben en fait, voilà, il passait
Aussi,
son diplôme
ouais,
d'ostéo, il était engagé avec l'équipe de France, donc il était avec
ok. Sous
l'équipe de
contrat de la
France
Fédé,
pendant les fenêtres
ouais. Ouais, mais à côté
internationales,
de ça, il avait un peu de
et puis
temps.
l'été, et le reste du temps, il avait du temps. Donc il s'était pris une équipe de prénates qui coachait, et il se régalait. Et donc, moi, bah, je faisais la prépa de cette équipe de prénates.
Ah, ok. Ah oui, c'est goupillé comme ça, c'est cool.
C'est goupillé comme ça. C'est de cette période qu'est né le projet du livre aussi.
Ah oui, ok. Ça, c'est ahurissant. Comment c'est possible qu'on arrive à un si gros projet derrière à partir d'une rencontre?
Non, c'était fou. Bah, en fait, on s'est tout de suite super bien entendu.
Ouais, il y a eu un feeling pour arriver à faire un livre.
Il y a
ensemble.
Un feeling déjà professionnel ouais. sur les idées qu'on avait.
Ouais, ok.
Et puis humain, aujourd'hui c'est un ami proche quoi.
Ouais, okay.
Et puis surtout, j'avais 26 ans et lui il avait de l'expérience. Et puis encore une fois, il a continué à peaufiner aussi ma formation quoi.
Ouais, ok. Ouais, mais...
Dire Franck, c'était du genre, on allait faire un footing. Pendant le footing, il me posait des questions, tu vois,
ouais, okay.
sur le système,
ouais,
sur la physio, ouais. pendant ta course à pied. On s'arrêtait, on faisait des abdos. Il me disait là, si je suis ton client et que t'es mon coach, je fais mes abdos comme ça, comment tu me corriges, ouais, okay. etc. Enfin, à la limite, des fois,
c'est
il me.
C'est un gars qui t'aide ouais. à passer des câbles aussi. Mais c'est cool, c'est trop bien.
C'était génial, quoi. C'était comme un mentor, quoi.
Ouais, okay. ouais,
si ce n'est mon mentor. Voilà.
Ouais, okay.
Et donc voilà, première rencontre clé. De ma carrière, si ouais. je puis dire. Si elle n'est pas.
Bah, t'es jeune encore quand même.
Ouais, je suis encore jeune. ouais. Là, ça va être ma 10e année. Là.
Ah, c'est fou parce que.
10e saison professionnelle.
Ouais, ça fait quand même pas longtemps au final. T'as vécu beaucoup de choses, hein, pas beaucoup de temps.
En très peu de temps, ouais, c'est vrai.
Ça peut être le témoignage d'un gars qui a 45 ans, c'est pareil quoi. Tu vois ce que je veux dire c'est...
Et comme je te disais tout à l'heure en off, là, c'est en fait, je me suis retrouvé un peu au bon endroit, au bon moment.
Oui,
des opportunités que j'ai saisies aussi. Après, il faut faire le boulot. Si t'es pas bon, ça marche pas aussi, tu vois. Mais...
Tu peux pas tricher, mais.
Tu peux pas tricher. Tu peux tricher, mais ça dure jamais
à
longtemps.
Terme, ouais, à très court terme. ouais, évidemment.
Mais
oui,
donc
okay.
voilà.
Et du coup, là, à ce moment-là, tu as fait ça, c'était l'année du DU. Et l'année d'après, t'es parti sur quoi?
Et donc, fin du DU, au mois de. Fin juin, je reçois une proposition du club de handball de Steaua Bucarest,
okay.
en Roumanie. Qui me disent, voilà, il faut. On démarre au 1er juillet.
Ah oui!
Enfin, j'avais, je crois, il m'avait donné 4 jours pour répondre.
Ah oui, mais comment ça, c'est par l'intermédiaire de Franck, ça se passe comment?
Parce que en
tu
fait,
vois, ça, je fais une petite aparté, mais tu vois, moi, j'aimerais. Un de mes objectifs à court terme, c'est d'aller à l'étranger
mm-hmm.
pour vivre une expérience de ce type-là, prioritairement sur un gros club, parce que c'est plus cool, évidemment.
C'est
mais c'est pareil, c'est compliqué de trouver les offres, de se faire des relations là-dessus. Comment toi, comment c'est arrivé cette opportunité?
Donc, Franck, lui, il revenait de Roumanie.
Ouais, ok.
Il avait passé quelques années en Roumanie.
Mm. Sur ce club-là, non?
Non. Alors lui, par contre, c'était avec les féminines.
Ouais,
ouais, donc
à Bucarest, avec les filles.
Alors,
Rapide, non.
Non, c'était Vulcea.
Ah oui, ok. En Roumanie aussi, ouais, c'est vrai.
Holcim Vulcea,
ouais,
qui
ça.
A changé de nom maintenant.
Ah,
c'est
ouais,
Ramnicu Vulcea. C'est un gros club roumain féminin, après le CSM, qui est un des plus gros clubs européens d'ailleurs aujourd'hui, qui se bat avec Brest pour la Ligue des Champions chaque année. Et en fait, donc, il avait fait quelques années là-bas. Pour la petite anecdote, le coach avec qui il bossait, c'était le père d'un ancien joueur de handball professionnel qui a joué aussi en équipe nationale de Roumanie, qui a joué en France okay. aussi. Il s'appelle Bogdan Voina.
Okay.
Il a joué en France. Il a joué pour l'équipe nationale roumaine. Et lui, aujourd'hui, il est dans le business du sport. Tu vois, dernièrement, il s'est présenté pour être président de la Fédération roumaine de handball.
Oui.
Donc, il est un peu dans le milieu. Et à l'époque, le Steaua, alors il y a autre rencontre clé de ma carrière, Vassil Estinga, pour ceux qui suivent le handball.
Et pourtant, je suis
normalement,
le
handball. c'est le... Bon, Vassil Estinga, c'est... le meilleur joueur de l'histoire de la Roumanie au handball.
Ah oui, mais bon.
Et bon, la Roumanie, c'était quand même
une grosse équipe,
nation de handball il y a quelques années. Quoi. Il y a plusieurs dizaines d'années.
Oui, okay. Oui, ok.
À tel point qu'il m'expliquait qu'à l'époque, les Français, ils venaient en Roumanie pour voir comment les Roumains travaillaient. Quoi.
Ouais, mais je crois, oui, c'est une nation historique avant.
Aujourd'hui, ils sont nulle part, les Roumains.
Il n'y a plus rien. Alors que la France.
C'est... Je parle du handball masculin.
Ouais.
Il n'y a plus rien, quoi.
Non.
Alors que la France a explosé.
Oui,
mais à l'époque,
oui, oui.
c'était les Français qui allaient voir les Roumains pour s'inspirer de ce qu'ils faisaient. Quoi.
Ouais, tout le bloc ex-URSS, c'était...
Et c'est ça. Et donc, Vassil Estinga, légende, je crois qu'encore aujourd'hui, les meilleurs marqueurs de l'équipe nationale de Roumanie.
Ouais.
Pour te dire, à l'époque, c'était... Bon, il y avait une dictature en Roumanie,
ouais.
avec Nicolae Ceaușescu. Personne n'avait le droit de sortir de Roumanie, tout était fermé, la communication était contrôlée.
Ouais.
Fallait surtout pas que les Roumains apprennent comment les gens vivaient dans les autres pays aux alentours, parce que sinon c'était... Bref. Et donc Vassil Estinga, c'est le premier athlète de haut niveau qui a été autorisé par Ceausescu à l'époque à partir de Roumanie pour aller jouer dans un club étranger.
Oh le délire.
Et il est parti en Espagne.
Ouais, c'est...
Donc c'est une légende. C'est vraiment.
Contexte en plus à l'époque, chaud.
T'imagines, c'est vraiment la légende quoi, du handball roumain.
C'est un peu le Karabatic de ce que va être dans
Et le handball en Roumanie, c'est le sport numéro 2 quoi, après le football. Donc c'est vraiment une légende. C'est vraiment une légende. Et donc, bon, je vais essayer de faire court, mais c'est important. Donc lui part en Espagne, il travaille avec. Des préparateurs physiques, enfin je te parle de ça, c'était dans les années 70-80, tu vois.
Ok, les prémices.
Et il travaille avec un prépa physique français à l'époque. Et je te parle de ça, les fins des années 80, vraiment, c'est il y a longtemps. Et quand il arrive au Steaua, du coup, en 2017, 2017-2018, ou 2016-2017, je sais plus, en tant que directeur sportif, tu vois. Et là, il dit, ok, moi, je veux un prépa physique, parce qu'il n'y en avait pas avant, et je veux que ce soit un Français. Pourquoi ? Bah parce que moi, je sais comment les Français, ils bossent.
Ah, oui,
et pour moi, les Français en prépa physique, c'est les meilleurs d'Europe. Et donc, il dit, moi, je veux un prépa physique français.
Ah oui, c'est fou.
Donc, du coup, c'est là qu'entre en jeu Bogdan Vojna, qui, lui, a joué en France. Ouais. Son père était coach, qui a travaillé avec un préparateur physique français, Franck Kuhn.
Ouais.
Ils se mettent en relation. Et donc, du coup, Vasile Stinga se retrouve à demander à Franck Kuhn, j'ai besoin d'un prépa physique français, aide-moi à trouver un prépa physique français. Et donc, c'est là que mon CV arrive sur la table du Steaua. Et voilà. Et donc, Vasile Stinga m'appelle et il me dit, alors, du coup, tu veux venir? Je dis, il faut que je vous donne la réponse maintenant. Il me dit, non, t'as 4 jours. Et il raccroche.
Ah ouais.
Ouais ouais.
Ah oui,
à l'époque j'ai ma copine, tu vois.
Ah oui, là c'est en plus c'est vrai, c'est... on parle pas d'aller à Paris, on parle d'aller
Là c'est j'ai ma famille, j'ai ma copine qui est devenue aujourd'hui ma compagne avec qui je partage ma vie et avec qui j'ai eu un enfant cet été.
Félicitations.
Donc, tu vois, c'était une relation sérieuse, c'était pas juste ma copine de l'époque.
Ouais, tu pouvais pas te dire OK, je me casse et j'en ai rien à faire.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc ma famille et j'ai 4 jours pour prendre ma décision quoi.
C'est fou.
Et bon, du coup, j'ai eu le soutien de toute ma famille. Ils m'ont tous dit, vas-y, fonce, c'est une super expérience. Donc, je suis parti.
Elle t'a suivi, toi?
Ma femme m'a suivi aussi, ouais.
Ouais.
Alors, elle finissait ses études.
Okay.
Donc, les 6 premiers mois, en tout cas, de juillet à octobre, j'étais tout seul en Roumanie pour la prépa et puis le début de saison. Et puis, elle, à la fin de saison, elle a fini son master elle fait une école de com, de marketing à Lyon. Et donc, quand elle a eu terminé, elle m'a rejoint en Roumanie.
Ok.
Elle m'a rejoint, elle n'avait pas de boulot, rien, elle a tout quitté. Elle était en alternance dans une grosse boîte à Lyon.
Et ah oui, donc c'était
elle avait un CDI assuré, tout ça, et elle a tout quitté pour me rejoindre en Roumanie.
Ouais. Finalement, c'est un peu, tu vois, le lien carrière sportive pour les athlètes, des fois pour le staff, c'est la même chose.
C'est exactement la même chose.
Choix de vie.
C'est exactement la même chose.
Ok.
À la différence près, c'est que les joueurs, entre deux entraînements, ils font, entre guillemets, pas grand-chose.
C'est vrai.
Alors que nous, on bosse tout le temps, quoi.
C'est ce que j'allais dire. Peut-être que finalement, les premiers mois, si elle n'était pas là, c'est aussi bien pour toi. Ouais, parce que t'as dû charbonner pour être adapté déjà. Parce que je suppose que c'est une autre culture aussi. Donc,
ouais, c'est ça.
Ah ouais, et t'es resté 2 ans là-bas, 3 ans.
3 ans, 3 saisons, on a fait.
T'en retires quoi de cette expérience? T'as kiffé le mode de vie?
Ouais, c'était tout génial. Ouais. La Roumanie, c'est vraiment un pays que je recommande.
Ok.
Pour un week-end entre potes ou.
Pour un contrat, du coup.
Pour un contrat aussi, ouais, franchement. Alors, ça dépend où tu vas, parce qu'il y a des particularités aussi. Mais moi, là où j'étais au Steaua, en plus, c'est le club le plus titré de Roumanie.
C'est une grosse structure, t'arrivais pas dans un truc.
Voilà, donc c'est un gros club.
T'avais des conditions
ambitieuses.
Ok.
On se battait pour le championnat, pour le titre de champion avec le Dynamo, donc en plus, c'est le rival, quoi. C'est le PSG-OM du handball roumain, quoi. Et donc franchement,
tu fais des coupes d'Europe du coup à ce moment-là?
Alors pas la première année, parce que moi quand j'arrive, la saison d'avant ils finissent 7e, je crois. Ils se font éliminer en premier tour des playoffs, pas terrible quoi. Alors que chaque année ils se battent pour le championnat. Et donc c'est un peu pour ça que Vasile Stinga arrive, il dit faut qu'on réforme tout, il nous faut un prépa français, ils avaient changé un peu le staff technique tout ça. Et on fait une saison incroyable. On est premier du championnat toute l'année, invaincu à domicile, meilleure défense du championnat. Saison de fou, quoi. Saison de rêve.
Tout se passe bien en plus.
Ouais. On fait finale de Coupe de Roumanie. Alors, au handball roumain, tu passes 2-3 tours, puis après, tu as le Final Four. Tu fais demi-finale, finale dans le même week-end.
Okay.
Et donc, on fait finale de Roumanie, qu'on perd malheureusement. À Constanța, c'était. Donc, c'était un autre gros club roumain. Le championnat continue. On va en finale des playoffs parce que du coup, on se retrouve premier à la fin de la saison régulière, donc on a l'avantage du terrain pour tous les tours de playoffs. Donc on va jusqu'en finale, on retrouve Dynamo en finale.
Ah.
On perd chez nous le premier match. Hein. Donc là, tout le monde se dit, bon, bah, c'est fini,
mort.
Impossible d'aller gagner à Dynamo. On va gagner à Dynamo.
Ah.
Et on se retrouve à jouer un match décisif chez nous qu'on perd dans les dernières secondes du match, quoi, tu vois. Okay. Ça se joue.
Ouais, bon, ça reste quand même.
Tu jettes une pièce, elle tombe du bon côté, t'es champion, elle tombe du mauvais côté, t'es pas champion.
Ouais, okay. Ça reste quand même une bonne expérience.
Ouais, ouais, ça reste une expérience cool, incroyable. Donc, okay. Du coup, ben, l'année d'après, on est en Coupe d'Europe. Donc là, c'était vraiment bien. On a fait. L'année d'après, par contre, c'était horrible. Enfin, horrible, dans le sens où on avait le championnat de Roumanie, 36 journées, plus les playoffs. Donc, tu rajoutes une douzaine de matchs.
Ouais.
On avait la Coupe de Roumanie. Donc, en plus, on retourne en finale qu'on perd contre Dynamo encore une fois.
Ah oui, OK.
Donc, tu rajoutes 6 matchs. On fait EHF, EHF Cup, ça s'appelait à l'époque.
Ouais.
Donc, c'est l'équivalent de la deuxième Coupe d'Europe après la Champions League.
Ouais.
Je crois qu'on... On fait quelques matchs, on perd contre une équipe israélienne juste avant de rentrer dans les groupes.
Okay.
Donc on fait, je crois qu'on fait 3 tours. Donc c'est encore, c'est
ça
encore
fait
6 matchs.
Une saison.
Et puis on fait la CA League.
Ah oui, bah c'est vrai qu'il y a la Ligue Balkan. Ouais, okay. Ouais.
Alors c'est l'équivalent de l'Euroleague un petit peu au basket.
Ça représente, ouais. Sur l'Est Europe,
c'est
le plus gros vu que les championnats sont
avec
un peu plus
avec tous les plus gros clubs d'Europe de l'Est.
T'as les gros
ouais,
clubs
ça,
qui décident aujourd'hui.
Et donc on fait cette compétition-là qui représente encore, je sais pas combien de matchs,
une vingtaine
de matchs en plus.
Ça fait énormément de matchs du coup.
Et tout cumulé, pour les joueurs en plus, on avait des joueurs qui étaient internationaux, donc les fenêtres internationales, ils partaient avec leurs équipes nationales. On a fait une saison à plus de 85 matchs. Quoi.
Ah ouais, ok. Ouais, c'est chaud.
Donc là, c'était
surtout
compliqué.
Surtout sur un sport comme ça, où il y a quand même... Pour ceux qui ne connaissent pas le hand, c'est quand même... Il y a du contact, c'est engagé, quoi. Donc c'est pas...
Et puis tu voyages tout le temps. Enfin, c'était...
Ouais,
et puis surtout, on n'était pas staffé, on n'était pas structuré comme une équipe de Euroleague d'aujourd'hui, quoi. Tu vois, donc,
c'était les prémices. Donc,
c'était très compliqué, ouais. Assez compliqué. On finit 3 ou 4e en championnat. On refait quand même... finale de play-off, je crois. Je sais plus exactement.
Oui.
Je crois qu'on perd en demi-finale contre le CSM Bucarest. Et puis voilà. Et ensuite, la troisième année, le coach se fait virer. Un nouveau coach qui arrive. Renouvellement un petit peu d'effectifs. Et c'était une saison un peu mitigée. En plus, il y a le Covid et tout ça.
Ah
tu
oui,
vois,
c'était cette année-là.
Okay. Ouais, on finit... ils ont même pas fini le championnat, je crois.
Okay.
En Roumanie, on était confinés un mois avant la France.
Okay.
Et puis, ils ont gelé le classement.
Ouais,
et
okay.
Puis, terminé,
tout
on passe
rentré,
à la saison d'après. Quoi.
Okay.
Et donc là, du coup, je suis contacté par l'Élan.
Tu pouvais rester, toi, ou
ouais.
T'avais envie de rester? Non, c'était du coup, toi, tu voulais changer de...
En fait, je pense que si j'avais été tout seul, je serais bien resté.
Okay.
Parce que ça me plaisait là-bas, vraiment. Après, comme je te disais, j'avais aussi...
t'avais fait un temps quand même, déjà, 3 saisons.
J'avais fait 3 saisons. Ça changeait un petit peu l'organisation du club, pas dans le bon sens.
Ah.
Donc je me posais vraiment la question de rentrer en France. Et j'ai eu cette opportunité avec l'Élan Chalon. Du coup, à l'époque, c'est Julien Espinoza qui est coach, qui m'appelle.
Okay.
Et bon, le feeling passe bien, tout ça, on se met d'accord. Et puis du coup, j'ai débarqué ici à Chalon. Quoi.
Okay. Voilà. Et ça fait... 2 saisons que tu es ici, du coup.
Là, c'est ma troisième saison.
La troisième saison que t'entames qui...
Donc, je suis arrivé en 2020. Donc, j'ai fait 2020-2021. Saison 2020-2021. Bon, c'est pas une super saison parce qu'on descend en Pro B cette année-là.
Ah, mais c'était en Pro, c'est vrai.
Et donc, 2021-2022. Et puis, cette année, 2022-2023, quoi.
Ok. Je reviens juste vite fait sur ton expérience en Roumanie. Là-bas, tu étais tout seul en prépa sur l'équipe
ouais,
pro.
Ouais, ouais.
Il y avait un centre de formation,
non.
C'est rien du tout. C'est que l'équipe pro était à fond sur
que l'équipe pro.
Ouais.
Les clubs sont un peu organisés différemment en Roumanie. c'est beaucoup des clubs omnisports.
Ok, ouais, oui.
Donc,
oui.
Par exemple, nous, le Steaua Bucarest, ben, on avait le Steaua handball, le Steaua football, le Steaua rugby, le Steaua machin.
Ouais, donc c'est complètement différent.
Et donc, plutôt que d'investir dans de la formation, ils
mettent tout sur les pros.
Ils concentrent tout sur les pros et surtout, ils concentrent sur toutes les activités.
Ok. Du coup, tu as eu des échanges avec les autres clubs aussi, enfin les autres.
Alors, malheureusement, si tu veux, le siège du club, c'est un endroit qui s'appelle le Gensha, c'est le nom du quartier, c'est le quartier du Steaua.
Ouais.
Et c'est un complexe immense où tu rentres et puis tu as tous les terrains de foot, tous les terrains de rugby.
Ah oui.
Tu as la piscine parce qu'ils avaient une équipe de water polo au plus haut niveau européen aussi. Et toutes les disciplines sont là-bas, sauf le handball.
Ah non.
Donc nous, on avait une autre salle à côté. Le basket aussi n'était pas au même endroit. Okay. Donc, malheureusement, on ne croisait pas beaucoup les athlètes des autres activités.
Tu n'as pas forcément le temps quand tu as beaucoup de matchs, de toute façon, de prendre le temps d'aller voir. Mais...
Donc, c'était un peu dommage, mais...
Ah oui, ça reste.
Après, si, j'ai eu l'opportunité d'aller voir un peu le rugby, parce que le rugby, ça tournait bien.
Okay.
Le foot aussi. Alors, le foot, pour te dire, comme la Roumanie, c'est fait différemment. Le club... historique du Steaua, c'est un club qui a gagné la Ligue des Champions en 1973, je crois. Okay. Donc c'est un très gros club de foot. Et je crois que dans les années 90, ça se casse la gueule, ou tout début des années 2000.
Ouais. Okay.
Le mec qui finançait un petit peu tout, il s'en va et il crée son propre club.
Okay.
Donc historiquement, c'est le CSA Steaua Bucarest.
Ouais.
Dont, Clubul Sportif Armatei, donc c'est club sportif de l'armée.
Okay.
Historiquement, c'était club de l'armée du Steaua Bucarest. Et lui, il crée le FC, le Football Club Steaua Bucarest.
Ah oui.
Il prend le même nom. Sauf qu'il y injecte de l'argent et c'est un club qui se retrouve tout de suite au plus haut niveau et en première division. Et à l'inverse, le CSA Steaua plonge.
Okay.
Se retrouve en 4e ou 5e division.
Ah oui, okay.
D'ailleurs, c'était fou parce que la première année où j'arrive, donc le Steaua, le club historique du Steaua, joue en 4e division. Le derby contre Rapid, il se joue à l'Arena Nationale.
Ah oui, ok.
70 000 places.
Ah oui, le truc de malade, quoi. Le truc de fou.
C'est comme si une équipe de National 2 au foot joue au Parc des Princes, au Stade de France, quoi, tu vois.
C'est parce que c'est le club historique, voilà, donc c'est le truc de malade. Il y a encore les
c'est le plus
les
gros.
Fans,
et puis Rapid, Bucarest, Steaua, Bucarest, encore un autre derby.
Ouais.
Il y a une rivalité qui est encore plus ancienne que Dynamo et Steaua. Et donc le match se joue à guichet fermé dans un stade de 70 000 places, 4e division.
C'est
incroyable. Truc de fou.
Et, sachant que Bucarest, toi tu es à Bucarest, c'est une grande ville en plus.
Ouais, ouais, 3 millions d'habitants.
Ça, t'as aimé le cadre de vie et tout.
Ouais,
Bucarest, c'est cool. Bah, c'est réputé un peu aujourd'hui Bucarest pour être un peu une ville, enfin en tout cas moi de ce que je sais, un peu une ville où tu peux aller faire la fête et tout.
Ouais, ouais, c'est génial.
C'est un peu génial. Le truc.
C'est génial. Franchement, la vie là-bas, c'est top. L'architecture, ça ressemble beaucoup à Paris.
Ok.
Parce que, bon, en fait, dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que Ceausescu, pour en revenir à lui, c'était un amoureux de la France. D'ailleurs, les relations entre la Roumanie et la France sont très, très bonnes.
Mm.
Et bon, il a fait un peu quelques modifications. Il a pété des bâtiments et il a fait venir des architectes français pour reconstruire un peu le centre-ville.
C'est fou, la Roumanie, ils sont fans de la France.
Et donc, du coup, donc, tu te balades en centre-ville et t'as beaucoup de ressemblances avec Paris, tu vois.
Okay.
Et puis, la langue, c'est une langue latine.
Oui, ok. T'as appris le roumain ?
J'ai appris le roumain, je le parle un petit peu, toujours un peu.
Là-bas, c'était anglais dans le staff.
Sinon, c'était anglais.
Anglais, normal, ok.
Et donc, la langue est latine, donc, qui est coincée au milieu quand même de la Serbie, tout ça, donc des langues qui ressemblent pas à la nôtre.
Pas du tout,
Là, c'est une langue latine, donc c'était assez simple à apprendre.
Mm.
Une culture un peu latine aussi, tu vois.
Ouais, ok.
Et pour faire la fête, c'est génial.
Ouais, la vie à côté.
Culturellement, c'est génial.
Oh, c'est cool, en vrai.
Bon, après, t'es à Bucarest, c'est la plus grosse ville, il y a 3 millions d'habitants, c'est hyper développé, t'as l'impression d'être dans une capitale d'Europe, quoi.
Ouais, voilà, t'es pas en mode dépaysé totalement.
Quand tu sors un peu de la ville, là, c'est un peu différent.
Okay.
Bon, t'as des paysages magnifiques, la montagne, la mer, tout ça, enfin, c'est...
Ouais, c'est vraiment...
Franchement, on a passé 3 ans là-bas, on s'est régalé.
Ok, c'est trop bien.
Vraiment régalé.
T'as eu la chance d'avoir des expériences quand même hyper différentes et qui en même temps sont hyper enrichissantes
d'un
mode d'être du sportif.
D'un point de vue professionnel et personnel, c'était vraiment très enrichissant. On a rencontré des gens Enfin, tu vois, je suis allé à un mariage en Estonie, quoi. Ah j'étais invité à un mariage en Estonie, alors que jamais de ma vie je me serais dit, tiens, je vais aller à Tallinn en week-end, tu vois.
Forcément.
Donc, c'est incroyable. Ouais, franchement, okay. C'était humainement super expérience, professionnellement aussi super expérience.
Ah, c'est trop bien. Et pareil, question pareil, sensible, je m'intéresse à ça parce qu'en ce moment, c'est un peu mon thème de voir un peu le développement. Là-bas, c'était comment au niveau contrat financier, t'arrives à t'en sortir ou c'était compliqué?
Ouais, alors déjà, ben, le niveau de vie, il est plus aisé là-bas. Hein. Avec 1000 euros, tu fais beaucoup plus de choses là-bas qu'en France. Et puis, alors moi, mon contrat, pour être très honnête, quand je suis parti, j'avais un an plus une deuxième année.
Okay.
En gros, à la fin de saison, je devais d'abord négocier avec le Steaua pour reconduire avant de négocier avec d'autres clubs.
Okay.
Et donc, à la fin de ma première année, ils m'ont re-signé tout de suite 2 ans.
Okay.
Et c'est comme ça que j'ai fait mes 3 ans. Donc, c'était un CDD classique.
Okay.
Voilà, et j'étais plutôt bien payé parce que j'étais presque à 3000 euros net par mois.
Tu n'avais pas d'appart, pas de voiture, enfin,
si, par contre, j'avais l'appart. Alors, dans les 3000, il y avait l'appart inclus.
Okay.
Donc, il y avait 400 ou 500 euros de loyer.
Okay.
Donc, en fait, j'avais un salaire de 2005.
Donc, ça reste bien.
Voilà.
Surtout si le mode de vie en plus est inférieur à ici.
Ouais, voilà, c'est clair. Non, ça, la vie coûte beaucoup moins cher. Et après, c'est le sport numéro 2. Et puis, de toute façon, ils ont toujours eu la réputation de très bien payer les joueurs, le staff et tout ça. Donc,
c'était carré, quoi.
Ouais, ouais.
Ok, très bien.
Et j'étais pas un des mieux payés. Hein,
ouais,
clairement.
De toute façon, le prépa physique, c'est pas souvent.
Il y a beaucoup d'argent dans le handball roumain.
Ok, oh, bah, c'est super. Ok.
Donc,
du coup, tu te retrouves à revenir il y a 3 ans en France. C'était quoi les motivations à part le fait de revenir en France? Pourquoi Chalon du coup? Pourquoi le basket? Comment ça se
Le basket, j'ai toujours été proche du basket.
Ouais.
Parce que du coup, entre-temps, pendant mon expérience en Roumanie, on écrit le bouquin avec Franck, qui sort en 2018, tu vois. Donc j'ai toujours été assez proche du basket, même si j'ai jamais pratiqué, mais j'ai toujours aimé ça.
Oui.
Et j'ai cette opportunité dans le basket. Et puis, il était temps pour nous qu'on rentre en France aussi, tu vois.
Je me doute.
Chalon, c'est assez proche de ma région natale, donc assez plus simple pour voir la famille dans les moments importants de la vie aussi, parce que ça, on passe tellement de temps à bosser que des fois, on loupe des moments importants. Et, et donc, c'était un critère important pour moi de rentrer en France et plutôt proche de la famille, quoi.
Ouais, ok. Ok, c'est cool. Et depuis ton retour, du coup, ça se passe comment? T'es content d'être dans le club?
C'est quoi je suis très content d'être dans ce club. C'est quand même un gros club aussi du championnat français, qui a été champion de France...
Il n'y a pas si longtemps.
Ouais, en 2017. Ouais. La dernière fois, en 2017.
Finalement.
Fait l'Euroleague, tu vois. Donc, c'est quand même un gros club. Le centre de formation qui est réputé, qui a sorti quand même pas mal de gros joueurs.
Ouais, c'est vrai.
Avec en tête de liste Clint Capela, quoi. Ouais, tu vois,
c'est pareil.
Donc tout cet aspect-là, le centre de formation, moi j'avais pas d'expérience avec les jeunes parce que en Roumanie il y en avait pas.
Ouais.
Donc je me suis dit nouvelle expérience aussi,
c'est cool,
intéressante.
Ouais, c'est clair, ça te change encore.
Et puis à l'époque, on me vend le truc, il y a tout à faire, tu vois.
Ouais, ok.
Il y avait un prépa qui était là juste avant, mais il avait décidé de partir parce que lui, il était plus branché sport individuel.
Okay.
Et le sport co, c'était pas trop un environnement dans lequel il avait envie de s'épanouir. Donc, il est parti. Et donc, moi, je suis arrivé derrière et j'avais pas mal de choses à organiser, quoi, tu vois.
Enfin,
il fallait qu'on fasse progresser le club sur l'aspect performance, quoi.
Ouais, optimisation de la perf.
Optimisation de la perf.
Et la structure là-bas, elle est bien, c'est carré. Enfin, t'as ce que tu disposes. Parce que tu vois, moi, pour du coup regarder un peu ce qui se fait en Pro B, au volet aussi, du coup, vu que j'y suis, je me rends compte qu'il y a beaucoup de clubs où la structure en soi, elle est pas très développée. Il n'y a pas d'espace de travail qui est vraiment cohérent, ou alors des tout petits espaces. C'est compliqué pour pouvoir optimiser vraiment la chose, quoi. Est-ce que là-bas, c'est.
À Chalon, c'est un club déjà de Pro A à la base. Donc, bon, il y a eu cet accident, on descend en Pro B. Mais c'est quand même un club qui s'est installé en Pro A pendant longtemps.
Ouais.
Le Colisée, c'est une salle qui fait 4800 places.
C'est la plus belle salle de Pro B, je pense. Maintenant, il y a Orléans qui est
sorti. Maintenant, il y a Orléans, mais tu vois, c'est pareil. Ouais, Orléans, est-ce qu'ils ont vraiment leur place en Pro B ou pas?
Ouais,
je sais
voilà.
Pas, tu vois.
Oui, clairement.
Il y a Nancy qui a fait quelques années en Pro B, ils remontent en Pro A. Ouais, tu vois, ils ont une salle énorme aussi. D'ailleurs, ils la remplissent tous les week-ends en Pro A. Plus grosse influence de France.
C'est incroyable.
Enfin, donc déjà ça, le Colisée, c'est un sacré, c'est une sacrée salle, c'est, ouais, c'est impressionnant.
Déjà de par le nom,
ouais, bah voilà, c'est ça.
La salle, le Colisée.
C'est les gladiateurs qui vont
Ah, c'est clair, ok.
Et on a une salle de muscu donc qui est dans le Colisée,
okay.
qui est un petit peu petite en termes de superficie.
Okay.
Mais bon, il y a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour bosser. Après, c'est toujours pareil. On veut toujours plus.
Oui, bah forcément.
Si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, on a des infrastructures qui sont top. Une salle, des vestiaires, on a du matériel de récup dans le vestiaire des joueurs.
Okay.
Je pense que le petit point faible, c'est notre salle de muscu. Tu vois. Okay. Il faudrait un petit coup de neuf dans la salle de muscu.
Okay.
Ou peut-être trouver une solution pour l'agrandir un peu, renouveler un peu le matériel. Parce que le matériel a pris de l'âge,
ouais, forcément,
en soi.
Ouais.
Mais on a tout ce qu'il faut. Tu vois.
Okay.
On a des machines guidées, on a des machines libres, on a des haltères de 4 kg jusqu'à 47 kg.
Ouais, donc c'est
on cohérent. A tout ce qu'il faut, tu vois.
Ouais.
Je pense c'est on a vraiment du bon matériel. Le seul problème, c'est qu'on peut pas faire une séance avec 10 joueurs dans la salle de muscu.
Ouais, après.
Obligé de faire des petits groupes, ce qui m'arrange aussi.
Ouais,
parce
en
que,
soi, c'est cool aussi si tu veux un peu individualiser ou au moins avoir un peu plus de recul sur
ouais,
ce
mais tu
fais,
vois,
mais...
par exemple, le centre de formation, il y a 20 gamins.
Ouais, c'est compliqué, du coup.
Même si tu fais des petits groupes, tu te retrouves avec des groupes de 6-8. Ben, déjà, à 6-8,
c'est chaud.
C'est chaud.
Ouais, ok, chaud. Ouais, donc c'est...
Donc, c'est le petit bémol, c'est le truc à améliorer, tu vois. Mais après, bon, on a du budget, donc tu vois, on peut acheter un peu de matos. Chaque année, on achète un peu de matos. Tu vois, on a investi un peu dans la technologie, des capteurs de vitesse.
Okay.
Pour la salle de muscu, je parle, hein, tu vois, des capteurs de vitesse.
Ouais, des encodeurs linéaires, enfin des trucs.
Voilà, des encodeurs linéaires.
Gym Aware.
Ouais, voilà.
Ça s'appelle comme ça, ouais. C'est ça que vous avez ?
Type Gym Aware.
Ouais, parce que le prix. J'ai dit, attends, là. J'ai acheté deux pistes au volet l'année dernière, ça a coûté 400 balles.
Ouais, non, c'est pas le Gym Aware, mais c'est le Vitruve.
C'est qualif, ça reste cool.
Je pense qu'il y a des modèles qui sont peut-être un peu plus fiables aussi, mais
oui, bon, mais bon, je crois que
j'avais rapport qualité-prix,
c'était l'un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Il coûte 500 €, je crois, à peu près.
Ouais, un peu moins.
Ouais,
et c'est surtout que je mets 400 € ici, j'économise peut-être 200 par rapport à notre modèle, mais c'est 200 € que je vais mettre dans autre chose.
Ouais, complètement.
Et donc après, faut gérer ton budget. Quoi.
Ouais. Voilà. Toi là-bas, tu vois, aujourd'hui, ça se développe beaucoup, surtout dans le rugby. Je trouve que le rugby, ils ont un temps d'avance un peu en termes d'optimisation de la perf.
Clairement, ouais.
Comparé au basket, volley, même le hand. Et tu vois, on voit des gars qui vont être nommés directeur de la performance, par exemple, ou prépa physique.
Ouais.
Toi, ton rôle là-bas, c'est un peu ça, c'est responsable optimisation de la perf, même si on t'appelle prépa physique.
Ouais, dans mon contrat, c'est préparateur physique.
Ouais, mais c'est toi qui peux...
Mais comme en fait, ce que je te disais, c'est que quand je suis arrivé, il y avait juste besoin d'un prépa physique.
Ouais.
Et là, on a, par exemple, cette année... on a un deuxième prépa qui est en alternance, qui fait son master 2 en alternance, Kevin, qui s'occupe essentiellement du centre de formation.
Yeah.
Et moi, je chapeaute un peu tout ça.
Ouais, okay.
Et donc, du coup, le fait qu'on soit deux, on peut faire plus de choses, en fait.
Ouais, forcément.
Tu vois plus de travail indiv avec les jeunes, ce qu'on faisait pas beaucoup les années d'avant. Cette année, on a mis en place un suivi de la charge avec RPE, wellness et tout ça.
C'est tellement chronophage que si t'es seul, c'est mort.
Donc, si je suis seul, je peux pas le faire. Là, on est deux, c'est lui qui s'en occupe. Et puis, on a un staff médical qui est étoffé. On a un staff au niveau du centre de formation qui est étoffé aussi. Et si tu veux, on s'est créé une cellule performance, c'est comme ça qu'on l'appelle.
Ouais, okay.
Tous les lundis, on fait une réunion. Réunion cellule perf.
Okay.
On parle de tous les blessés avec le kiné. Donc la réunion, en général, il y a moi, il y a le deuxième prépa Kevin qui est là, s'il est là, parce que des fois il a cours aussi, il n'est pas toujours là, mais quand il est là, il est dans la réunion. Il y a Hugo le kiné qui est là aussi, et puis il y a le coach des espoirs qui est le responsable du centre de formation, et le coach des cadets.
Okay.
Puis des fois, leurs assistants, quand ils sont là, ils viennent aussi, mais bon, en général, on est ce petit groupe-là, et on fait cette réunion cellule perf, donc on... d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un point sur les RPE de la semaine, plus RPE du match, plus wellness.
Okay.
Parce que du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on a tout automatisé avec Google questionnaire, là, tu sais. Et donc, on envoie juste un lien. Donc, Kevin envoie un lien le dimanche soir aux joueurs. Les joueurs répondent à leur wellness le dimanche soir. Comme ça, le lundi matin, quand on fait notre réunion, on a toutes les infos.
Quoi, en fonction, quoi.
Okay, leur RPE, cool. Ils ont 30 minutes après chaque séance pour le remplir.
Okay.
S'ils ne le remplissent pas, tous les soirs, Kevin il met un message en disant « Attention, Séance de muscu de 10 heures, lui, il a oublié son RPE. Séance collective de 16 heures, lui, il a oublié son RPE.
Okay.
Derrière, il y a des sanctions, des choses, ouais, tu vois.
Okay. Donc, il y a un suivi. Aussi,
ouais, mais ça, c'est hyper chronophage. Ça prend un temps fou. Et ça, c'est juste de la discipline.
Ouais, c'est
après,
clair.
Il faut analyser, il faut réfléchir. Ah, attention, c'est... là, qu'est-ce qui se passe, tu vois.
C'est juste le début du process, quoi.
Et ça reste juste un RPE, tu vois. Ouais. C'est que de la valeur subjective.
Ouais, c'est fou.
On n'a pas de capteur GPS, on n'a pas d'accéléromètre, on n'a pas tous ces trucs-là, quoi, tu vois.
Bah, c'est des choses qui prennent aussi beaucoup de temps et il faut pouvoir les analyser.
T'imagines et... Il faut un gars à temps plein pour faire ça.
Ouais, il faut un data scientist pour un gars comme ça.
C'est ça.
C'est compliqué, en
c'est
fait.
C'est ça,
ouais. Ah oui, okay. Ok.
Et donc, du coup, pendant cette réunion, on met en parallèle RPE. Ah bah lui, il a des RPE assez élevés. Le kiné qui rajoute une info en disant c'est vrai qu'il s'est plaint d'une petite douleur là, et puis sur son wellness il a marqué qu'il n'avait pas bien dormi, et puis tu vois
tu peux faire des liens et
on met des liens sortir. De cause à effet, et puis des fois c'est tout bête mais t'as le coach qui te dit ah lui en niveau de stress il est élevé, mais c'est normal, laissez tomber, il a son bac de français la semaine prochaine,
évidemment.
Tu vois, des fois ça n'a rien à voir avec le sportif.
C'est un bon moyen pour réussir.
Des fois, tu dis, putain, lui, il a jamais de problème avec le sommeil. Et là, qualité de sommeil qui se dégrade. Qu'est-ce qui se passe? On va parler avec lui. On se rend compte que c'était les vacances scolaires. Il y avait un stage de volley, par exemple. Mm. Les volleyeurs ont été accueillis dans l'internat, au même internat que nos basketteurs. Bon. Et ils ont fait un peu le bazar le soir et ça a perturbé.
Ouais, évidemment.
Enfin, tu vois, et tu récoltes plein d'infos comme ça, quoi.
Ouais, c'est sûr. Tu vois, moi, je trouve ça intéressant. Et après, la réflexion que je me suis faite l'année dernière, c'est que... Alors, nous, moi, c'était sur les pros. Donc, en soi, ils ont que ça à faire en même temps. Mmh. Mais je trouve un biais, c'est que ça prenait beaucoup de temps. Et certaines, à un moment, tu vois, en se lassant, on répondait, je pense, de manière... Tu vois,
un peu toujours la même chose.
Voilà. Oh, 5-7, 7-8, bon. Et quand tu vas questionner, ah non, mais en fait, j'étais peut-être un petit peu en dessous. Ah, mais elle s'écoutait plus vraiment parce que la routine, quoi. Et du coup...
Alors, nous, on a eu cette réflexion vis-à-vis de ça. Et pour contrer ça, ce qu'on a fait, c'est que ce qui me paraît très important, c'est ce que d'ailleurs toutes les études à ce sujet disent, c'est qu'il faut montrer aux joueurs que ceux qui répondent, ça a un impact en fait. Ouais. C'est-à-dire que il faut qu'ils sentent que ben si ça va, qu'il a des scores assez bas dans toutes les modalités, on va le laisser tranquille, on va pousser un peu, peut-être qu'on va lui rajouter une séance indive,
ouais, ouais.
En disant va, t'as du jus, on y va. Mm. Et puis le jour où il se sent fatigué, on attend de sa part de l'honnêteté, ouais. Dire voilà, je suis fatigué, j'ai mal dormi, je suis un peu stressé, j'ai des courbatures. Et derrière, s'il voit que ben on va le voir, on le convoque, alors attends, t'as dit que t'avais pas bien dormi, qu'est-ce qui s'est passé? T'as des courbatures? Ah oui, et qu'il y a un échange avec lui.
Ouais, c'est clair.
Et parce
c'est
que
une porte d'entrée, quoi.
Et comme je te disais en off avant qu'on commence, la condition pour qu'on mette ça en place, nous les prépa, c'était que tout le monde soit dans le même bateau. Mm. Les coachs, les joueurs, tout le monde.
Ouais.
Et c'est le cas. C'est-à-dire qu'un joueur qui a des RPE élevés pendant 3 jours d'affilée, par exemple, avec un wellness qui n'est pas terrible,
Il y a des vraies adaptations.
Nous, on arrive, on dit, lui, demain, il ne s'entraîne pas.
Ouais.
Et le coach, il dit,
pas de souci.
Les gars, si vous avez estimé par rapport au suivi de la charge qu'il ne doit pas s'entraîner, il ne s'entraîne pas. Il n'y a pas de problème.
Ouais, okay.
Les coachs, là-dessus,
il y a une vraie corrélation entre
ils sont vachement ouverts, quoi.
Ouais, donc ça c'est cool.
Parce que ils ont compris que leur intérêt, c'est que les joueurs ils soient performants pour le match.
Progressent à long terme aussi.
Et progressent à long terme parce que c'est pour moi l'objectif numéro 1 d'un centre de formation.
Ouais. Et puis se blessent le moins possible. Et puis ouais, voilà.
Et ça, Romain Chenot l'a bien compris parce que des fois il est capable de se passer d'un joueur un week-end d'un match.
Ah ouais.
Tant pis si on le perd. Okay. Ben parce que l'objectif premier, c'est pas de gagner tous les matchs quand t'es en formation.
C'est pas les mêmes enjeux.
C'est te développer, tu vois.
Ah, c'est évident. C'est pas
et donc, lui, il jouera pas ce week-end parce qu'il est fatigué, parce qu'il y a un trop gros risque de blessure avec lui.
Ouais.
On le préserve. Comme ça, on perturbe pas son développement.
Ouais.
Et
il vaut lui un petit pic d'un côté qu'après 4 semaines de blessure,
ça.
Après une entorse,
exactement
une connerie. Ouais, ok, c'est intéressant.
Et des fois, par exemple, on a un jeune, Mathias, qui était pas mal sollicité cet été. Il a fait des trucs NBA, il est en équipe nationale. Donc, il est arrivé 3 semaines après les autres. Donc, il a manqué 3 semaines de prépa. Puis surtout, il avait passé un été. Il était mort, quoi. Et en fait, ça pose aucun problème au coach de dire, OK, lui, pendant un mois et demi, son programme, il est individualisé.
Ouais.
Il fait les séances collectives basket quand on prépare les matchs, quand on travaille tactiquement. Et le reste du temps, s'il faut qu'il fasse que du travail indie, il fait que du travail indie. Ouais. On le sort du groupe s'il y a besoin.
Ouais.
Si on estime qu'il y a besoin de ça pour qu'il retrouve sa forme, qu'il récupère, etc. Et puis pour garantir un risque de blessure bas,
ouais, c'est clair.
On le sort du groupe, il n'y a pas de problème. Il fait que du travail indie.
Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Et du coup, c'est des enjeux différents de l'équipe pro aussi, ouais. Parce qu'il y a pas...
Exactement.
Il y a moins ce truc de court terme. Moi, tu vois, il y a un truc que j'aimerais bien utiliser. L'année dernière, du coup, on avait utilisé RPE, on avait fait des wellness modifiés. Et du coup un grip test et bon, les résultats n'étaient pas probants, j'ai pas trop exploité la chose. Moi ce que j'aimerais bien utiliser c'est la variabilité de fréquence cardiaque. J'ai pas accès à l'outil
onéreux.
Après je vois, il y a des applications plus ou moins fiables, il y a des choses qui se mettent en place et moi j'aimerais bien réussir, tu vois, à mettre en corrélation subjectif-objectif et vraiment le traiter derrière pour pouvoir montrer aux entraîneurs.
Bah, de toute façon, c'est le sujet du moment. Hein.
Ouais, c'est un peu la...
C'est à celui qui trouvera la solution à moindre coût pour.
C'est clair, même si je pense qu'il y a pas.
Confondre le subjectif et l'objectif.
Ah, c'est ça, mais il y a pas. Je pense que le meilleur, c'est quand même l'échange, tu vois, et il n'y a pas de. Mm-hmm. Y a pas de solution, c'est sûr. Et puis, de toute façon, je suis pas sûr qu'on puisse éviter toutes les. Enfin, c'est impossible d'éviter toutes les blessures, de, tu vois. Mais optimiser la chose, avoir une réflexion autour de ça, c'est clair que c'est hyper intéressant.
La blessure, elle fait partie aussi
du jeu d'un athlète.
De la vie de l'athlète. Hein.
Ah, c'est clair. Et tu vois, il y a aussi une autre limite que je voyais à ça, c'est que j'ai certains profils, mais du coup, il faut aussi individualiser le ressenti. Finalement, quand moi je demande un RPE à une joueuse, je sais qu'il y en a certains profils, elles vont me dire qu'ils sont tout le temps fatigués, même quand ça va, ils sont fatigués.
Ouais, et puis un set pour
ouais, c'est clair. Un set n'est pas
ta joueuse numéro 1, c'est pas le même set que pour ta joueuse numéro 2. Tu vois.
Il faut un peu de temps pour connaître l'athlète et pouvoir vraiment écouter la chose. Mais du coup, tu as bien raison de mettre en avant que ça demande un travail de staff vraiment. Quoi.
C'est ça, ouais.
Il faut vraiment être en staff et travailler ensemble. Non, ça, je pense, c'est des choses qui sont intéressantes à mettre en place dans tous les clubs.
Et pro, le fait qu'on le fasse en réunion, c'est bien parce que des fois, ça tombe sur un joueur. Bon, bah, il se trouve que j'ai de bonnes relations avec ce joueur-là, je suis plutôt proche, il a tendance à se confier à moi. Donc, moi, je prends la chose en main en disant écoutez, il a des niveaux de stress élevés, je vais aller lui parler moi.
Ouais.
Et si ça tombe sur un autre joueur qui a peut-être plus d'atomes crochus avec l'assistant coach,
c'est
l'assistant coach qui va dire hey, si vous voulez, les gars, moi, il a tendance à se confier à moi, c'est moi qui vais lui parler cette semaine. Tu vois.
Ouais, okay.
Et c'est vraiment un gros boulot de staff.
Okay.
Et c'est vraiment intéressant. On le fait un peu moins, enfin, on le fait pas du tout d'ailleurs sur les pros. Parce que c'est un autre mode de fonctionnement. Savo, c'est un coach qui a une expérience incroyable. Donc, ça fait 30 ans qu'il coach. Donc, il a sa manière de manager. Il se base aussi sur des critères subjectifs qui sont les siens. Parce qu'il est très, très bon là-dedans dans le management humain. Il va parler aux joueurs. Les relations avec les joueurs, il est très, très bon là-dedans.
Okay.
Donc, c'est pareil. Il voit très bien quand il y a un joueur qui est moins bien. Il se base sur des critères subjectifs, son œil de coach avec ses 30 ans d'expérience. Et c'est une autre manière de gérer la charge de travail aussi, tu vois. Mais c'est juste qu'on mesure les choses de manière un peu différente.
Ouais. Puis je suppose que toi aussi, tu donnes ton avis et tu
t'as. Exactement, exactement.
Ok, c'est intéressant. Et plus concrètement, comment ça se passe sur l'équipe pro là? Toi, comment tu travailles avec les gars, la programmation, parce que tu vois, moi j'y reviens beaucoup. Quand tu es en études, quand tu es à l'extérieur du monde pro, tu as tendance à voir la prépa physique comme quelque chose de très linéaire, de très précis, carré, de macro-cycle, etc. Et plus tu arrives dans le monde, tu vois, et plus tu dis, en fait, tout ça, c'est pas bullshit, mais bon, on ne peut pas l'appliquer, en fait.
Tu ne peux pas l'appliquer.
Tu as un à deux matchs
par semaine. Tu as la théorie et puis la pratique.
Tu vois, et c'est quelque chose que je retrouve chez tous les prépas dans le sport pro. Et du coup, toi, moi, je me rends compte, tu vois, avec les béliers ou avec le volet, du coup, c'est un peu plus compliqué, mais que mes planifs changent tout le temps, que c'est compliqué de vraiment pouvoir travailler avec certains joueurs, que c'est compliqué de mettre en place des choses. Vous, comment ça se passe concrètement une semaine
Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait toujours un planning qui faisait deux entraînements le lundi, un entraînement le mardi, deux mercredis, un le jeudi, un le vendredi et match samedi.
Okay.
Et quand les jours où on double, par exemple, le lundi, le matin, on fait prépa physique et shooting. Et donc, dans la partie prépa, muscu, travail de prépa physique. Et à l'intérieur de ce créneau de prépa, c'est souvent très individualisé. Tu vois. On suit un peu une trame par rapport à l'objectif à court terme du match. Mais après, avec toutes les spécificités de chaque joueur. Okay. Quoi.
Ouais,
à peu près chaque joueur a son programme, tu vois. Et en fonction aussi du kiné, s'il y a de la réhab à faire, des choses comme ça, tu vois.
Bon, ben,
ça se passe dans la salle de muscu, c'est individualisé. Maintenant, depuis quelques semaines, on enchaîne beaucoup de matchs.
Ouais, ouais.
Et on a changé un peu de fonctionnement. On s'entraîne plus qu'une seule fois par jour. Mais par contre, sur un créneau, des fois, qui peut aller jusqu'à 3 heures.
Ouais, okay.
C'est-à-dire que les joueurs, ils arrivent à 10 heures. De 10 heures à 11 heures, c'est libre. Ils font ce qu'ils veulent.
Okay.
Ils peuvent aller sur le terrain, tirer, faire de la prépa physique sur le terrain, faire du travail indiv avec l'assistant coach, faire des soins avec le kiné,
ouais,
faire de la muscu, faire juste leur routine de prévention ou faire une vraie séance de muscu.
Ouais.
De 11 à 12, 12-15, 12-30, ça dépend.
Oui.
Séance collective.
Okay.
En général, avec Savo, c'est franchement, c'est une heure et quart, échauffement compris.
Okay.
C'est rarement plus que ça. C'est hyper qualitatif, c'est hyper intense, et c'est très court. Moi, ça me va très bien.
Okay.
Et enfin, c'est comme ça, c'est un peu comme ça que je vois les choses.
Ouais, okay.
Je préfère faire court, intense, qualitatif,
ouais,
quitte à rajouter avant la muscu s'il y a besoin ou du tir s'il y a besoin,
ouais,
et après d'autres modalités. Et donc du coup, jusqu'à midi, midi et quart, c'est comme ça. Et ensuite, ils ont encore la salle jusqu'à 13h. Donc, s'il y en a, par exemple, qui aiment bien faire leur muscu avant, collectif, et shooter après, ouais, il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils préfèrent shooter, travailler techniquement, faire le travail collectif et ensuite aller en muscu.
Ouais, okay.
Ou alors après, il y en a qui restent longtemps en récup parce que nous, dans le vestiaire, on a un jacuzzi et on a un bain froid.
Okay, ah oui,
donc, tu en as qui vont faire soin avec le kiné et après, ils enchaînent bain chaud, bain froid, tu vois, ils font plein de trucs.
Ils font leur truc, ok.
Et ils font leur truc un peu en autonomie.
Ok.
Toi, surtout en autonomie. Après, des fois, quand il y a besoin de les aiguiller, on les aiguille.
Ok.
Mais c'est beaucoup... Franchement, on n'impose pas grand-chose.
Sauf la séance collective, du coup.
Sauf la séance collective, tu vois.
T'es plus au service d'eux que...
Mais parce qu'aujourd'hui, on joue quasiment tous les trois jours, que c'est le sprint final, tu vois.
C'est pas maintenant que tu vas aller dire, ok, j'impose des charges de travail, parce que... Sauf si réhab ou problématique particulière, mais ouais, je vois.
Après, on a toujours un peu cette mentalité de... En tout cas, moi, sur ma gestion de la semaine, c'est... voilà, en début de semaine, on travaille... un peu sur les points faibles de chacun, la petite partie réhab aussi, s'il y a besoin. Et puis, plus on s'approche du match, plus on va faire des séances courtes en muscu ou en prépa et mettre de l'explosivité, des choses comme ça, tu vois, l'activation nerveuse classique.
C'est des choses qui plaisent aux joueurs en plus.
En plus, les joueurs, ils aiment bien.
Okay. Ah, okay,
on l'a fait sur le terrain, en muscu, ça dépend, tu vois.
Ouais, okay.
Mais donc, je vais la faire avec deux joueurs en muscu parce qu'ils préfèrent la muscu. Je vais, avec deux autres joueurs, je vais la faire sur le terrain parce qu'ils préfèrent sur le terrain. Avec ballon, sans ballon, tu vois, on s'adapte vraiment.
Ouais, t'adaptes au joueur. Après, je suppose que tu restes quand même... Tu fais pas ce que le joueur veut non plus parce que tu sais ce qu'il a besoin des fois et que lui ne...
Ouais, quand je dis qu'on n'impose rien, c'est que... On n'impose rien dans la mesure où cette année, on a un groupe où tout le monde est...
Volontaire dans le
et...
projet.
Et bosseur, tu vois.
Ouais, je vois, très bien.
À okay. des degrés différents, si tu veux.
Oui, forcément.
Toujours pareil, mais... Mais on a globalement des joueurs très pros et qui bossent, quoi, tu vois.
Okay.
Donc après, tu les aiguilles, tu leur imposes pas. Après, quand ils font un fausse route... C'est ton boulot aussi de les réorienter, tu vois.
Moi, je pense aussi que c'est aussi au prépa ou au coach de montrer, d'apporter sa méthode, entre guillemets, et de rendre la personne partisane et dire, ok, c'est comme ça, c'est bien, je te suis. Et,
ouais.
Et au niveau récup, du coup, tu me dis que vous avez de quoi faire, bain froid, bain chaud.
Bain froid, bain chaud. Donc après, bon, ça, c'est un peu le kiné. C'est pas le kiné qui gère la récup. Mais si tu veux, l'utilisation du bain froid, c'est surtout le kiné pour gérer les inflammations, les choses comme ça.
Ouais.
Donc ça, c'est lui qui gère, moi, je m'en occupe pas. On a un partenariat avec une cryothérapie, corps entier. Donc après, les bénéfices...
Oui, c'est ce que j'allais te...
Voilà, il y a des études qui disaient que c'était
tellement
génial.
Tellement contradictoire que...
Il y en a qui disent aujourd'hui qu'ils remettent en question... nous, il se trouve que les joueurs, ils aiment ça.
Ils
ont ce sentiment de bien-être après. Ils sont détendus, ils sont relâchés. Ça leur fait du bien.
Ouais, c'est complètement. C'est... En fait, je retrouve la même chose. C'est souvent. Ouais.
C'est peut-être du placebo aussi. Placebo, hein.
Mais le placebo marche aussi.
Voilà.
Mais tu vois, moi, j'ai tendance auprès des joueurs. Toi, certains joueurs me disent, ouais, Sam, toi, tu remets un peu en cause tout ce qu'on nous dit. Le bain froid. Et je dis non, je remets pas en cause. J'essaie juste de mettre une pyramide sur les premières étapes, c'est-à-dire, ok, tu vas au bain froid et tu vas faire ceci, cela après le match, il n'y a pas de souci. Mais le fais pas en buvant trois bières ou le fais pas en allant au McDo après ou en prenant une cuite. Et...
C'est clair.
C'est ça, c'est juste de remettre en perspective. Mais c'est clair que plus tu as d'outils à ta dispo, mieux c'est, je pense. Aussi,
ouais, c'est ça. Et qu'on a ça pour la récup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc on a bain froid dans le vestiaire, jacuzzi. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut faire l'alternance bain chaud, bain froid, qui reste à mon avis quand même quelque chose de très intéressant.
Ouais, vous avez vraiment un contexte qui est vraiment favorable à essayer de faire de la perf, on va dire.
Ouais, voilà,
c'est ça. Pour un club de Pro B, c'est quand même c'est exceptionnel.
Ouais, mais encore une fois,
c'est normal,
est-ce que notre place, c'est vraiment la Pro B? Quand on voit nos infrastructures, clairement non.
Ouais, c'est...
Après, bon, après bah, c'est... si on est en Pro B, c'est qu'on n'a pas fait le taf pour rester en Pro.
Finalement, ouais, le sport...
Sportivement, tu vois.
Mais on va dire que peut-être que la Pro A et la Pro B, il y a des clubs qui vont carrément jouer les deux. Enfin, Orléans, vous...
Ouais, clairement.
Il y a des clubs qui sont... Bah, c'est parce que vous êtes les prétendants à la montée, donc en même temps...
L'idée, c'est que... C'est bien aussi les équipes de Pro B qui viennent chez nous,
pour voir un peu aussi.
Voient quelque chose de différent.
Ah, je suis d'accord.
Il y a des échanges entre les coachs, entre les prépas.
Ouais, complètement.
Ça peut peut-être permettre aussi aux équipes un peu plus faibles de Pro B de se structurer, okay, un peu plus.
Il faut essayer de se structurer, je suis d'accord.
Tu vois, toi, t'es peut-être à mi-temps, l'étape d'après, c'est peut-être te prendre à plein temps.
Ouais,
et si t'es à plein temps, tu vas développer d'autres trucs, ça va... C'est pas toujours... des fois, nos dirigeants, ils réfléchissent un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'ils se disent... Ouais, un prépa à mi-temps, c'est temps, donc c'est la moitié.
Ouais.
Et à temps plein, ça va me coûter deux fois plus cher.
Ah, c'est clair.
Ok, ça va te coûter peut-être deux fois plus cher, mais ça va t'apporter deux fois plus de choses aussi.
Voire trois fois plus, parce que du coup, tu as plus de temps.
C'est toujours l'argument que je mets en avant quand je veux acheter du matériel. Par exemple, le capteur de vitesse linéaire. Là. Mes dirigeants, ils me disaient, mais ça sert à quoi? Je dis, ça sert à ça, ça, ça. Ah, t'as vraiment besoin de ça? Oui, si on veut faire un travail qualitatif, oui.
Ouais.
Et en plus, c'est pas juste une facture qui va te coûter tant. C'est qu'en plus, on va apporter de la qualité, on va apporter de la technologie dans nos manières de s'entraîner. Et ça fait progresser aussi le staff.
Ouais, c'est clair.
Parce que moi, de l'utiliser tous les jours, je vais progresser.
Ouais, c'est clair.
On a un stagiaire qui est là. Le stagiaire... c'est pas un stagiaire, c'est un alternant.
C'est un peu différent.
Faut faire la part des choses.
C'est un salarié alternant.
Il est salarié, donc lui, il est là. Tous ses collègues de STAPS... En Master 2, ils n'ont pas forcément ce genre d'outils à disposition, donc il va progresser plus que les autres.
Je suis d'accord.
Ça fait progresser la structure de manière globale.
Moi, c'est un peu la vision que j'ai de... On demande beaucoup de performances aux athlètes, et parfois, on staff pas en étant un peu moins exigeant sur cet aspect-là, alors que pour moi, c'est un peu la même chose. Il faut essayer d'être le plus performant et progresser dans ce qu'on fait, que ce soit la prépa, le kiné, les coachs,
Bien sûr, tout le monde.
Mais plus on se tire vers le haut avec des outils et de la recherche, meilleur on est aussi. Donc,
bien sûr.
Ça demande du temps, mais c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Ok. Ça veut dire 1h15 qu'on discute. En plus, le temps passe. Je pense qu'on aura bien l'occasion de refaire un autre podcast parce que clairement, il y a 1000 trucs à dire encore. Parce que j'aurais bien posé des questions plus précises sur ta manière de travailler, etc. Mais on va te clôturer là, sinon ça va être trop long. On refera à l'occasion.
Ouais, avec plaisir.
On peut même faire en distanciel, ça se fait aussi. Donc, c'est faisable. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi? C'est quoi tes objectifs? T'es à Chalon, mais est-ce que c'est un projet à long terme? C'est quelque chose sur lequel tu veux te fixer ou c'est...
Alors, mon projet à court terme, personnel et du coup collectif, c'est de remonter en Pro A.
Ouais.
Parce que quand je suis arrivé, on est descendu en Pro B, donc c'était un échec sur le plan sportif. Et donc, je me suis mis comme challenge un peu perso de me dire,
faire partie du truc.
Tant que je peux rester à Chalon, je reste à Chalon et je bouge pas de Chalon tant qu'on n'est pas remonté en Pro A.
Okay.
Je suis arrivé, on descend, c'est une contre-perf. Maintenant, il faut corriger ça, il faut remonter en Pro A.
Yes.
Donc, tu peux me souhaiter à court terme de remonter en Pro A.
Ouais, voilà. Complètement. Ouais,
ça sera vraiment, c'est un objectif personnel et puis du coup collectif parce que je le partage avec... mes collègues du staff, les joueurs et puis tout le club aussi
parce que
tout le côté administratif derrière qui nous pousse, qui font plein de choses pour nous qu'on voit pas au quotidien mais qui est tout autant important aussi à des degrés différents.
On s'en rend pas bien compte mais
et tout ça c'est... jusqu'aux bénévoles, les fans et,
okay.
et voilà donc c'est vraiment.
C'est ça. Donc tu te sens bien de rester.
Quelques années
encore quelques
à Chalon.
Temps à Chalon, ouais. Ok.
Tant qu'on atteint nos objectifs.
Oui, c'est clair. T'es pas du genre à vouloir changer tous les années.
Non.
Okay,
encore moins, justement, après une contre-performance.
Oui, t'as envie de... c'est sûr. Et pas d'autres livres en préparation, pas d'autres projets
Non, du coup, ça a quand même été un gros boulot.
Ça, c'est un truc que j'aurais bien voulu aller là-dessus un peu. Bon, on en reparlera plus tard, parce que c'est
avec plaisir, c'est très intéressant aussi. Ça a été une aventure. Je dirais ça, une aventure.
Ouais, complètement, j'imagine bien.
Enrichissante. Pour être très honnête, j'ose même plus l'ouvrir parce que je peux plus le voir.
Ouais, tu l'as trop.
J'ai passé tellement d'heures dessus que, si tu veux,
C'est bon, quoi.
Il faut que je préfère le donner aux gens, lisez-le, faites-vous plaisir.
Partagez-le, mais même le donner.
Mais moi,
Ah non, mais je comprends bien.
Je fais dire passer des journées, des nuits entières à corriger les trucs, à écrire, à faire de la veille scientifique.
Ouais. Puis je me doute bien
c'est un projet qui a duré presque 3 ans, quoi.
Ouais. Et puis je me doute bien que c'est un truc au moment où tu le rends, tu diras, j'aurais pu peut-être encore modifier ça, essayer de changer ça, faire mieux.
Et donc il est sorti en 2018, on a fait une réédition.
Ouais.
Donc on a rajouté des chapitres en lien avec le Covid.
Ouais, ok.
Par exemple, un sujet qui était super intéressant, comment. À quel niveau d'activation minimum il te faut pour maintenir tes qualités? Tu vois, typiquement, pendant le confinement, qu'est-ce que tu faisais chez toi pour pas perdre
ta force, ta vitesse,
ta force, ta vitesse, ces trucs-là.
Et
donc, c'est un sujet qu'on a abordé dans la réédition, la pliométrie chez les jeunes et tout, enfin, plein de sujets super intéressants. Donc, on s'est replongé dedans et c'est interminable. Donc, un deuxième bouquin, pas pour l'instant.
Non, pas pour
franchement,
l'instant.
Franchement, pas pour l'instant. Une troisième édition, pourquoi pas?
Il faut.
D'ici quelques mois, quelques années, pas de souci. Mais,
Mais en tout cas, tu te vois bien dans le basket.
Le basket, ça me plaît.
Ça te plaît?
Ça me plaît beaucoup.
Ouais. Ok, bah merci beaucoup. Sur les réseaux, tu es présent, actif?
Pas très actif.
Pas très actif.
Je suis actif dans le sens où je regarde beaucoup de choses, je suis beaucoup de monde, mais moi, je publie pas grand-chose.
Ok. On peut quand même te trouver sur Instagram.
Ouais, tu peux me trouver sur Instagram. LinkedIn.
Aussi.
Facebook,
après, Facebook
classique. Bon, Facebook, c'est un peu moins.
Pour les vieux.
c'est ce qu'on me dit souvent. Mais je pense que je suis totalement inactif sur Facebook. J'ai toujours mon compte, mais j'y vais jamais.
C'est un peu un truc où tu vas regarder plus que. Ok, très bien. Hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup pour le podcast. Donc, comme je l'ai dit, on va refaire. Je pense, si c'est possible, refaire un bientôt, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait encore plus revenir. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite, déjà si on peut partager, si vous pouvez partager, mettre des likes et commenter, c'est cool parce que je pense que c'est un podcast qui peut plaire à beaucoup de monde, beaucoup de prépa, beaucoup de coachs, de physio. Donc n'hésitez pas à partager et faire des retours. Je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve pour le prochain épisode. Salut. Et salut Guillaume.
Salut.